Merci de m'avoir invité. J'espère, je ne serai pas à la hauteur de la demande, mais j'essaierai d'être sincère. Grand du collier, voilà. Je suis engagé dans un kibbutz. J'ai 22 ans, hein, je suis amoureux, c'est une très belle femme juive. Je vous raconte ma vie, voilà, mais je ne vous raconterai pas la suite. Et donc je suis parti, et donc je ne suis pas marié, puisque je suis prêtre. Et curé de paroisse actuellement dans une paroisse. Enfin, je suis parti en Israël pendant 6 mois, presque 6 mois. À l'époque, ma génération, j'ai 57 ans, ma génération cherchait un peu ailleurs. Voilà, bon. Et c'était un grand moment de ma vie, c'est un des moments fondateurs. Et à la fin de mon voyage, alors qu'elle m'a dit non pour que nous puissions continuer à vivre ensemble, providence de Dieu, j'en sais rien, pour des raisons religieuses d'ailleurs, puisque je suis goy, je suis parti seul en pèlerin dans Jérusalem, et j'ai demandé dans une petite synagogue près de Jérusalem, qui s'appelle le tombeau de David, j'ai demandé la bénédiction juive. Et le petit rabbin qui était derrière avec sa kippa m'a dit que ça coûtait tant de shekels. Bon, j'ai accepté de payer. C'est une histoire d'Abraham, maintenant je sais comment ça se passe. Et il m'a dit, au fond, il m'a demandé quel était le prénom de mon père, Philippe, mon grand-père, Louis. Vous voyez qu'il n'y a rien de juif malheureusement là-dedans. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais il n'y a vraiment rien. Et il m'a dit, retourne là où tu es. Et tu verras quelque chose et la lumière. Je me rapproche, alors c'est pas pour ça que je suis devenu psychanalyste. C'est pour des raisons d'abord parce que j'ai fait une analyse personnelle et que j'ai ensuite ouvert un cabinet pour permettre à des chrétiens qui étaient assez souvent frileux sur le plan de la psychanalyse de trouver un psychanalyste croyant. Enfin, en tout cas, j'essaye. Ce qui fait qu'on a travaillé avec d'autres psychanalystes dans une association qui continue maintenant à offrir à des patients, chrétiens ou pas d'ailleurs, la possibilité d'interroger dans le cadre d'une analyse la donnée religieuse ou éthique. Et je vous promets, peut-être que je me vante, mais ça fait 15 ans et ça ne désemplit pas. Mais l'autre jour, il y avait, pour vous donner un exemple humoristique, dans la salle d'attente, il y avait deux sœurs tout à fait contemplatives, tout à fait guimpées de haut en bas, avec des voiles partout, comme on fait chez les cathos, c'est une invention tout à fait catholique, et un metteur en scène algérien pratiquant, musulman. Voilà. Donc ils ont discuté, parce que j'étais en retard évidemment, avec le précédent patient. Donc il y avait trois sœurs catholiques et un bon musulman pratiquant, et qui est venu me voir parce qu'il a considéré qu'il pouvait chez moi faire droit de son origine musulmane et de sa pratique de musulman. Le deuxième point d'entrée, c'est Apocalypse, qui ne veut pas dire fin du monde, mais qui veut dire révélation. Apocalyptein veut dire révélation. Tout d'abord, donc la question qui va être un peu de cette veille de ce soir, c'est qui et à comment et qu'est-ce qui se révèle? Au fond, c'est ça le problème. Le religieux, c'est un lieu où il y a un enjeu de révélation intime. Dans un groupe, dans une religion, déterminée ou pas. Donc, apocalyptique, c'est révélation. Il y a quelques temps, je lisais au bord de la plage, je vous dirai pas où, parce que sinon vous allez me rejoindre, parce qu'elle est magnifique, cette plage, c'est dans les Landes, voilà, donc c'est l'océan, c'est le vrai, pas la Méditerranée que j'aime pas beaucoup. Je suis breton d'origine, je lisais alors un truc très catholique qui s'appelle « Les écrits intimes de la mère de Teresa » que je vous conseille avec modération. « Les écrits intimes de la sainte de Calcutta ». Donc tout le monde connaît mère Teresa, c'est une petite bonne femme toute ridée, magnifique d'intégrité féminine, voilà. Qu'on voyait souvent représenté en train de tendre la main à des mourants de Calcutta, avec une grâce extrêmement, une espèce de féminité accomplie, de maternité accomplie, sur lequel nous avons tous pensé, jusqu'à sa mort, qu'elle était lumineusement accueillie et habitée de Dieu. Et quand on lit les écrits intimes, donc c'est pour ça que je vous recommande avec modération son livre, on découvre qu'elle a vécu 50 ans dans les ténèbres. Mais vraiment. Ce n'est pas une grande théologienne, ce n'est pas comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Thérèse du Calcutta, Sainte Thérèse de l'autre, les autres Thérèses, celle qu'on fêtait récemment, là, Sainte Thérèse d'Avila. Ce n'est pas une grande théologienne, c'est une femme plutôt d'inspiration vraiment de spiritualité intime, mais qui a vécu 50 ans avec des prières. Elle avait demandé qu'on ne publie pas ses écrits, mais les accompagnateurs spirituels ont décidé, bon, à juste titre ou pas, nous n'en pouvons pas en juger, de faire état de ce combat incroyable, insupportable, dans lequel elle a été plongée après 3 ans de délices au début de sa vocation, ce qui lui avait d'ailleurs permis de quitter l'ordre dans lequel elle était, j'ai un peu oublié maintenant, et de fonder ensuite les Sœurs de Calcutta. Dans ses prières, elle supplie Dieu de la délivrer des ténèbres, de l'éloigner de cette obscurité dans laquelle son âme est plongée. Ça a duré presque jusqu'à la fin. D'ailleurs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu moins longtemps, a vécu les 3 dernières années de sa vie, je crois qu'elle est morte à 24 ans, dans des ténèbres à peu près similaires. Ce qui fait que sur la plage, le bon Père Jean-François que vous avez en face de vous, a dit, moi la sainteté, c'est pas pour moi. Hein. S'il faut passer par ces souffrances-là. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila a dit elle-même, à la manière dont tu traites tes amis, on comprend que tu en es si peu. Voilà. Donc, elle était lucide, elle aussi. Charles Foucault, pour qui j'ai une très grande estime, disait, si tu me disais au moins une fois que tu m'aimes, mais tu ne me le dis jamais. Donc là, je pense que vous allez repartir découragé de votre propre sainteté. Donc j'arrête la conférence. Elle a duré 5 minutes. C'était pour vous décourager. Ça s'appelle le chapitre de la désespérance. Et puis en même temps, je lisais ses écrits d'intime et je me vois écrire une note dans le livre Le désir inconscient de Dieu que je vous cite parce que c'est tout à la fin du livre. Vous savez, c'est des idées qui vous viennent comme ça et dont vous n'entendez pas. Tout de suite la portée. Donc je parle de Mère Teresa. Tout à fait étonnant de constater une parenté entre ce qu'elle ressent de Dieu et ce qu'elle donne aux autres. C'est parce qu'elle vit cet abandon de Dieu qu'elle peut, semble-t-il, rejoindre si efficacement les abandonnés de la vie. Ça vous paraît logique? Moi j'ai mis beaucoup d'années à comprendre. Vous êtes très intelligent, alors. Ne m'en doutez pas, Annecy, c'est un fief. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, je suis en train de découvrir, ou de vous faire découvrir, qu'il y aurait une parenté entre ce dont nous souffrons et ce que nous pouvons donner. Encore faut-il que nous puissions transformer, nous verrons comment, cette souffrance. Et ça a fait rejoindre une autre réflexion que j'ai, alors pour le coup dans mon cabinet, c'est bien clair, hein, j'ai une paroisse, c'est à 50 km de mon cabinet, je ne reçois pas mes paroissiens dans mon cabinet, d'accord, je suis pasteur, voilà, j'ai charge de paroisse et charge d'âme, mais j'ai un cabinet à Aix-en-Provence dans une autre ville, je ne confonds pas les deux rôles, mais ça me permet quand même, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me repose de ma pastorale dans mon cabinet et je me repose de mon cabinet dans ma pastorale. Ça, ça m'aide. Je me suis aperçu récemment qu'après 15 ans d'exercice de psychanalyse, ça fait 25 ans que je suis dans le sacerdoce, ça a dû éviter, dans le cadre pastoral, de rentrer trop dans une fonctionnalité et dans une représentation extérieure, en raison même de la fréquentation de la souffrance intime, et qu'au fond, en raison de la souffrance intime qu'on a dans un cabinet, j'ai peut-être une autre vue maintenant de la pastorale. Mais ça, ce sera l'objet d'un nouveau livre que je suis en train de fomenter, qui ne plaira pas à tous les évêques. Enfin bref, ça c'est une petite attaque. Là, je pense qu'un prêtre actuellement, enfin un pasteur aussi, hein, ne peut pas être en fonction pastorale sans un travail sur lui. Voilà, j'en suis absolument convaincu. Et que c'est une aberration que de priver les séminaristes dans le monde catholique ou les prêtres d'un travail psychologique. Enfin, je vous l'ai dit, non, c'est mon amertume est passée puisque je vous l'ai transmise. Parce qu'on n'est pas, je ne suis pas toujours le bienvenu dans les séminaires. J'enseigne à Nice, mais j'enseigne même pas à Aix-en-Provence. Alors peut-être qu'ils ont des raisons, parce que je suis vraiment très mauvais, mais ils pourraient demander à d'autres psychanalystes, psychologues. Et néanmoins, dans mon cabinet, j'ai constaté souvent, pas toujours immédiatement, parce que une fois que les personnes disent aller mieux, je ne les vois pas souvent, après coup. Mais ça m'arrive d'en recroiser dans la ville, et plus d'une fois, et même dans le cadre de l'analyse elle-même, j'ai constaté qu'il y avait une parenté, un lien entre l'issue de leur travail thérapeutique et la souffrance pour laquelle ils étaient venus demander une thérapie. Je prends un exemple, et cette personne n'avait même pas fait le lien, c'était elle souffrait d'un syndrome d'abandon, d'angoisse d'abandon, et parmi les abandons successifs qui avaient abîmé sa vie psychique, elle avait été, c'était l'époque où il y avait des garnisons françaises en Allemagne, après la libération, et elle avait été placée, donc c'était une armée française qui était présente dans ces différents lieux, dans une classe où avec des Allemands, où elle ne comprenait pas un traître mot de la langue qui se parlait. Et ça a servi de révélateur à d'autres problèmes donc, que je tairai évidemment. Et il s'avère que cette personne est actuellement professeure de français pour les étrangers. Donc elle a transformé, alors c'est un cas parmi d'autres, mais je pourrais vous en citer, ils ne sont pas tous aussi explicites, mais au fond, la révélation dont j'ai parlé au début est la manière dont une blessure d'inféconde que nous pensions être devient féconde. Et d'ailleurs, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a des raisons profondes à mon être de psychanalyste. C'est évident. Les choses sont effectivement liées à ma blessure, personnelle ou familiale. Et qu'au fond, la meilleure chose que nous puissions être, c'est de rentrer dans la vocation que la blessure peut inaugurer en nous. Alors après, j'ai été voir ce qu'on dit dans l'Écriture, ce que dit Paul ou ce que disent les autres saints, et j'ai constaté, alors ça c'est une... Moi, par exemple, je pense que Jean-Paul II, il y a un morceau de sainteté dans ce bonhomme, et que c'était le seul... avec une force et un peu contre la tuerie d'ailleurs, même assez clairement, qui a pu, de fait de son origine polonaise, ami des juifs, ouvrir un dialogue avec le monde interreligieux. Enfin, là, moi, ça a été pour moi un des grands moments de ma vie, c'est, je suis content d'avoir été vivant au moment où Jean-Paul II a mis un petit bout de papier dans le mur de lamentation. Je suis très fier d'avoir été à ce moment-là. Et cet homme, et l'esprit d'Assise dont, à laquelle je fais allusion, donc ça c'est les années, j'ai oublié, 86, on a fêté les 25 ans, l'esprit d'Assise a été pour moi un moment de révélation, sans la confusion, qui levait cette espèce d'indifférence dont je vais parler, qui couvrait la première chose. Je crois que la première visite qu'il a faite, c'est d'aller voir son ami Rabat à Rome. Je crois que c'est la première visite qu'il a faite à Rome. Et il a fallu que cet homme ait suffisamment souffert des deux plus grandes idéologies destructrices que le siècle précédent ait connues pour qu'il ait eu la blessure et la sensibilité et la vocation d'ouvrir l'Église catholique au dialogue interreligieux. J'étais présent à... j'ai une affection personnelle pour l'église arménienne, qui est une église, une des premières églises chrétiennes, l'église arménienne du catholicos, hein, pas l'église arménienne catholique, il y a deux églises. Et j'ai vu de mes yeux, donc, ils avaient mis Jean-Paul II, donc le pape, évidemment, toujours en haut, quoi, et puis le catholicos, chef de l'église catholique, enfin, chef de l'église arménienne de rite orthodoxe, un peu plus bas. Et il a pris la chaise et il l'a mis à côté. Voilà, ça, tout à fait. C'est du Jean-Paul II craché. Et pour que cet homme et eu la force contre le protocole, contre voilà, vous êtes vous comprenez bien, de forcer le passage et d'ouvrir à Assise ce dialogue interreligieux, c'est que sa blessure personnelle de ce qu'il avait vécu dans le monde, etc. Faut vous rappeler que il a été le premier. Lorsqu'il a été nommé évêque de Cracovie, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller discuter avec les communistes contre l'avis de l'archevêque primat de Pologne, qui ne voulait pas s'abaisser ou qui ne voulait pas franchir le pas. C'est un homme qui parle avec tous les hommes. Et les premiers avec qui il a voulu parler, ce sont évidemment le monde juif, et puis ensuite, là je crois que s'il avait vécu un peu plus longtemps, s'il n'avait pas été malade surtout, il aurait été plus loin avec le monde orthodoxe, qui est le monde avec lequel nous avons une, surtout nous les catholiques, avec lequel nous avons une blessure actuellement non guérie, ça c'est vrai. Mais nous n'imaginons pas, et je n'imaginais pas moi-même, pouvoir vivre dans ma vie à un moment de dialogue et de réconciliation avec le monde juif. C'était pour moi inimaginable, mais c'est lui qui l'a inauguré. Et donc, ce Jean-Paul II, comme d'autres, les gens blessés ont une vue d'avance. Ils voient à l'avance quelque chose. Enfin, les gens blessés qui ont fait de leur blessure une manière de regarder le monde. Ils ont un train d'avance, si vous voulez. Ils ont un goût d'anticipation. Jean-Paul II avait parfaitement compris, comme d'ailleurs Benoît XVI actuellement l'a compris sur le problème de la raison et de la foi, il a parfaitement compris que le grand dialogue, le grand problème de demain, c'est le problème de la raison et de la foi, et qu'il a parfaitement, ce sera comme ça qu'on pourra rentrer en dialogue avec les musulmans, avec le monde de l'islam. Mais je pense, enfin, là je le dis, je fais un petit coup d'encensoir, mais pour les catholiques qui sont présents, on a actuellement, depuis Jean XXIII, pas au milieu de la curie, hein, au milieu de la curie, c'est de la carrière et de la curie, voilà, c'est de la curie. Mais en haut, on a de la sainteté, hein. On a un morceau de la sainteté, c'est-à-dire Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI. Vous avez, on a actuellement, on n'a jamais eu d'aussi grande figure papale. Hein. Alors on les conteste sur place parce qu'on est dedans et que, etc., et que rien n'est parfait, mais qu'il y a des tas de frein à l'institution catholique, mais je suis sûr que nous verrons plus tard que nous avons affaire actuellement à de la grande sainteté. Bref, sans parler uniquement de Jean-Paul II et de Benoît XVI, même d'autres personnes que j'aime bien, comme Vincent de Paul, j'aime beaucoup Vincent de Paul, parce que j'aime beaucoup son visage, c'était tellement... Tout le monde voyait les enfants abandonnés dans la rue. Comme nous voyons des tas de choses dans la rue et qui ne nous mettent pas en route. Mais à un moment donné, cet homme, pour des raisons que j'ignore, a décidé que il ne peut pas faire autrement que de les accueillir. C'est ça. Ce qu'on peut appeler l'anticipation de celui qui est suffisamment blessé pour faire de cette blessure une nouvelle manière de voir le monde. Et il a vu les enfants abandonnés, et il a inventé les orphelinats, et il a fondé les sœurs de la charité, qui ont joué après dans les films de Funès, non pas uniquement, mais entre autres, avec Langorne Cornette. Mais, au fond, c'est quoi la sainteté ordinaire? Enfin, c'est cette blessure qui devient une manière de regarder avec distance le monde qui m'entoure et de voir à l'avance ce dont les hommes ont besoin. Alors, c'est ce que dans l'Église catholique, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il y avait tellement de statues empoussiérées, tout à fait hygiéniques. Qui a encombré nos églises et qui ne sont pas dans les temples protestants, parce que voilà, il nous indique, à tort ou à raison, après on peut, mais il nous invite pour que nous le soyons nous aussi, que nous regardions à l'avance, de par la sensibilité donnée par la blessure qui est la nôtre, qu'elle soit personnelle, familiale ou ethnique, un regard différent que les autres n'ont pas, parce que c'est le seul endroit où nous ne sommes pas aveugles. C'est le seul endroit où nous ne sommes pas sourds. C'est le seul endroit où nous sommes... C'est-à-dire que nous sommes aveugles et sourds, mais nous le savons. D'ailleurs, ça doit être une phrase de Jésus, ça. Hein, les boiteux marchent, les sourds entendent, et les aveugles voient. Et ceux qui disent qu'ils ne sont pas aveugles, et ceux qui disent qu'ils ne sont pas sourds, et ceux qui disent qu'ils ne boivent pas, sont des menteurs, dira le Christ plus d'une fois. Donc, c'est pas une apologie de la blessure, c'est une apologie de la transformation et de la conversion de la blessure. Bon. Alors après, chacun de nous, et c'est ça qui est intéressant dans l'Écriture, c'est que Paul, qui est un sacré bonhomme, qui est un peu misogyne quand même, enfin bon, c'est son problème, je le trouve un peu misogyne, mais les plus belles, les plus beaux propos de Paul sur l'Église sont liés à une sorte de misogynie, mais enfin bon. Il écrit dans 2 Corinthiens, alors il a eu un moment de, comme Mère Teresa, comme peut-être la plupart d'entre vous, mais pas moi, un moment de voyage, d'intimité. Hein, il dit, est-ce dans mon corps, est-ce hors mon corps, j'ai été ravi, enfin, mis, etc. Il y a un passage comme ça, il est saisi, ayant été saisi, je suis saisi. Hein, c'est tout à fait du Paul, simplement. Et un peu plus loin, il écrit, parce que ces révélations sont extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une scolops, une écharde. C'est la seule fois que ce mot apparaît dans l'Écriture. Ça veut dire épine, pieux, pâle. Donc vous avez le choix, si vous voulez. Hein. Si vous considérez que vous n'avez pas qu'une épine ou une écharde, vous pouvez aller jusqu'au pâle. Ronce, écharde. Voilà. Il a été mis une écharde dans ma chair, pas dans mon esprit. Un ange de Satan chargé de me frapper. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, de l'enlever, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Quand on a dit ça, il faut aller se coucher, hein, ou se mettre en prière. Aussi mettrai-je mon orgueil, alors ça c'est magnifique comme renversement, plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Alors évidemment, chacun de nous, puisqu'on ne sait pas de quoi souffrait le brave Paul, était-il infirme, épileptique, on s'en fout. Par contre, qu'il ait fait l'expérience au cœur même de la rencontre avec Dieu, que c'est par la faiblesse que Dieu le tient, pour que cette faiblesse devienne le lieu du passage de la grâce. Quand on, en Chine, quand on casse un vase, nous, quand on casse un vase dans les pays occidentaux, on s'arrange pour ne pas voir les coulures, enfin, le point de colle qui va remettre ce vase en son intégrité. En Chine, j'ai appris ça récemment, d'ailleurs, dans un livre, on y met un fil d'or. Parce que c'est l'histoire du vase qu'il a été brisé à cet endroit-là. Et c'est donc sa chance du vase qu'il a, hein, des fils d'or qui prouvent qu'il a été brisé et réparé. La blessure, avant de devenir un péché. C'est-à-dire, avant qu'elle ne s'infecte, parce que la blessure peut s'infecter. Alors après, il faudra mesurer, bon, il y a des blessures qui sont si intenses, pas, que parfois on ne peut pas les convertir aussi rapidement, mais je vais y revenir. En tout cas, la blessure, en tant que telle, et encore une fois, le christianisme n'est pas un éloge de la blessure, mais vous avez la même chose avec Jacob dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, hein? La hanche, vous trouverez plusieurs fois de ces hommes qui ont été atteints la même où ils étaient faibles, et que à cet endroit-là, Dieu a parlé comme jamais il a parlé, et qu'ils ont entendu quelque chose de fondamental, et surtout qui écrit leur vie et leur destinée. Notre destinée est le fruit de notre blessure. Alors, partie de cette hypothèse, après j'ai regardé des personnages que l'on rencontre dans le Nouveau Testament, dans l'Écriture chrétienne, dans le sens d'Écriture chrétienne, et j'ai constaté que le Christ parle exactement à ces endroits-là. Exactement à ces endroits-là. Et je vais donner trois exemples. Donc c'est dans le texte de Jean, moi un évangile que j'aime beaucoup, évangile tardif, hein, où on raconte des histoires qu'on ne raconte pas dans les autres évangiles. Et il y a une très belle rencontre que j'aime beaucoup, puisqu'elle est entre un homme et une femme. C'est la Samaritaine, chapitre 4, je sais plus, oui. Donc ça se passe au bord d'un puits, je vous raconte, il fait chaud, il est midi, on est en Samarie. Les apôtres sont partis faire des courses au supermarché local. Il est tout seul avec cette femme. C'est la rencontre intime entre Dieu et l'homme, enfin Dieu et l'âme, hein, entre le Christ et cette femme. Et il y a un puits, et vous savez que la scène du puits dans l'Ancien Testament, Sarah, Rebecca, tout ça, c'est la scène, excusez-moi, de la séduction par excellence. Il paraît qu'il n'y a pas plus beau qu'une femme qui vient puiser et descendre un seau dans un puits. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je vous conseille pour les hommes, si vous n'avez pas encore trouvé votre bien-aimé, d'aller au bord du puits, à Annecy, et d'aller demander à votre bien-aimé de puiser et de mettre le seau dans le fond du puits. Bref, c'était la scène vraiment, c'est là qu'on choisissait, que les amours se nouaient autour de l'eau, autour du puits, autour de la tente, de la soif. Hein, je dis ça avec humour, mais vous avez compris l'arrière-fond. Bref, et il lui demande de l'eau, c'est quand même le renversement incroyable, qui sera d'ailleurs la fin de ma conférence. Dieu a soif. Ouais, c'est Dieu qui a soif. Avant que nous ayons soif, c'est Dieu qui a soif. Et il lui demande de l'eau, et il parle, mais comme un homme parle à une femme, dans le contexte un peu amoureux, érotique, voilà, de ce milieu de journée, et elle « Comment tu parles à moi ? Il sait qu'il est juif, je suis samaritaine, comment ça se fait que nous parlons ?» Et il commence à éveiller son esprit à une autre dimension de ce qu'il attend lui et de ce qu'elle attend elle, mais qu'elle ne sait pas encore qu'elle attend. Vous allez voir. Donc il lui parle de l'eau vive, de la soif. Et puis à un moment donné, et ça vient en plein milieu de leur dialogue, il dit cette phrase incroyable que j'avais sautée 15 000 fois et sur laquelle je suis revenu un jour, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Quand on est psychologue, et qu'on entend cette phrase, jamais j'aborderai de front un symptôme comme ça. Parce qu'en fait, nous savons un peu la phrase suivante, « Oui, tu as raison, j'ai eu 5 maris. » Donc, à une femme qui aurait 5 maris, imaginons, je fais une psychanalyse très rapide et sauvage du texte, une femme qui a 5 maris, il y a vraiment un problème, si vous voulez, il y a un symptôme répétitif, provoque une compulsion, j'en sais rien. Et lui, va, appelle ton mari, reviens ici. C'est incroyable. Je vais tenter de vous donner de dégager la profondeur de cette phrase. Va, c'est-à-dire 3 verbes impératifs qui se situent exactement là où ça fait mal, mais pas trop quand même. Sauf que, remets-toi en route dans ton vrai désir, désigne celui que tu aimes et reviens me le présenter. Ce qui veut dire dans mon langage à moi, ce n'est pas parce que les réponses que j'ai données à mon désir, ce n'est pas parce que les réponses de mon désir sont mauvaises, non les réponses sont mauvaises, pardon, que le désir est à rejeter. Je reprends. C'est-à-dire, les symptômes sont des mauvaises réponses à une vraie question. Mais souvent, à cause du symptôme, que ce soit dans un cadre thérapeutique ou dans un cadre religieux, nous rejetons désir à cause des mauvaises réponses que nous avons données à nos désirs, à notre désir. Et que nous préférons nous passer et nous mutiler, et excusez-moi, dans l'Église catholique, alors là, on était des grands champions de la mutilation, c'était faire mourir le désir. Alors que s'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus grande tradition mystique et spirituelle, depuis les Juifs jusqu'à tous les chrétiens, que de mettre en évidence qu'il y a un vrai désir dont je ne connais pas l'énoncé. C'est un patient qui me disait ça un jour, je suis habité par une question dont je ne connais pas l'énoncé. Je l'ai écrit, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, tu te rappelles, je tutoyais, c'était un jeune. Il me dit non, je ne me rappelle pas. Moi, je dis moi, je me rappelle très bien parce que je suis habité par une question dont je ne connais pas l'énoncé. J'entends parfois Quand on fréquente le cœur, comme ça, le cœur de l'homme, et pas simplement dans les paroisses, où c'est difficile d'entendre intimement quelqu'un, il faut ce huis clos du cabinet pour qu'on aille au bout et qu'à un moment quelqu'un vous dise cette révélation, cet apocalypse, habité par une question dont je ne connais pas. Nous sommes habités par un désir dont nous ne savons rien, que nous pressentons simplement, auquel nous avons donné tellement mauvaises réponses que nous croyons qu'il faut tout rejeter, comme le bébé et l'eau du bain. Alors qu'il nous faut revenir au désir initial, le désir, cette quête fondamentale, qui est ma signature de ma place dans le monde. Et ma signature de ma place dans le monde, et j'espère que j'y arriverai, c'est ma façon dont ma blessure m'a posé dans cette histoire ici. Donc quand il dit « va, appelle ton mari, reviens ici », d'abord ça fait penser à l'ère Vera d'Abraham, hein, on entend cette façon de quitter ton symptôme, quitter ta vieille terre, quitter tes oignons de Moïse pour le peuple juif en Égypte, et quitte les oignons et les mets succulents, hein, pour arriver dans ce désert, pour que, et ça c'est le prophète Osée, hein, c'est pas moi qui l'invente, « Va au désert et je te parlerai de cœur à cœur. » Qu'est-ce que fait Dieu sans arrêt? Nous dit « Ne rejette, non, n'enlève rien de ce que tu es et ne confonds pas les mauvaises réponses que tu as faites à ta vie et le vrai désir authentique qui t'anime. » Allemand, pour dire ça, pour moi qui l'ai inventé, mais je le tire à la fois de ma fréquentation des blessés et des souffrants que je rencontre dans mon cabinet et de la pastorale. Et, y a rien à... et chacun de nous est animé par un désir que nous avons un peu, auquel nous avons donné des réponses, provisoires ou brouillonnes, mais c'est pas pour autant que la vraie question est invalide. Va, appelle ton mari et reviens ici. Il est tout seul avec cette femme. Il y a comme une intimité presque amoureuse, je disais, la rencontre de Dieu et de l'âme, hein. Le cantique des cantiques n'est que l'écho de cette rencontre entre Dieu et l'âme, puisque nous serons tous épousés par Dieu, homme ou femme que vous êtes, nous serons tous des épouses. Et il appuie à l'endroit, hein, appuie à l'endroit comme ça. Alors elle dit, tu as raison, j'ai eu 5 maris. En fait, elle n'a jamais eu de mari. Et d'ailleurs, il est le sixième. C'est ce qu'on dit. Il est le vrai sixième, c'est-à-dire elle est enfin à la hauteur de la portée du désir qui commence, on ne sait pas la suite de l'histoire et ça ne nous regarde pas, dont la portée, comme une portée musicale, s'est enfin révélée à elle. Donc la révélation, vous voyez où je veux en venir, elle n'est pas à la fin des temps, elle est au bout, comme Saint-Augustin le dirait, à l'intimité même de l'âme, là où je pense que c'est à la fois caché, mais simplement un peu caché. Je fais du catéchisme depuis 25 ans, hein. J'ai toujours la même année, j'ai toujours les 8 ans, les 8-9 ans, parce qu'on les prépare pour les catholiques, c'est la première communion. Je pourrais en parler de la première communion, bref. Et ces braves gamins, depuis 25 ans que je les vois passer, après je les ai mariés, après etc., j'ai baptisé leurs enfants, mais ces braves enfants, bon, le grand problème actuellement, c'est que nos enfants n'ont pas accès à leur intériorité. Donc, je pense qu'on a affaire à des enfants hyper stimulés sur le plan sensoriel, comme jamais nous l'avons été, et qui fait qu'ils sont dans l'extérieur, hein, qui sont perdus, qui sont angoissés. Donc, ma catéchèse, le gros de ma catéchèse, c'est de trouver toute une symbolique pour tenter d'approcher la vie intérieure, de faire découvrir ce qu'est la vie intérieure à un enfant. Et ils en sont capables. Ce que je vous raconte, je vous le jure, que c'est vrai. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un prêtre, mais ça m'est arrivé. C'était en précédente paroisse à Aix-en-Provence. Donc j'avais une très belle église du 12e siècle, l'église Saint-Jean-de-Malte, une église romane magnifique, que je vous conseille d'aller visiter, à côté du musée Granet, donc tout est magnifique. J'avais la plus belle église d'Aix-en-Provence, hein, presque. Et dans cette église, avec des pénombres, des magnifiques, etc., j'ai éparpillé les enfants pour faire une expérience un peu d'intériorité, comme ça. Et donc, ils étaient chacun, je leur demandais de prendre une posture adéquate, assis ou à genoux, mais ils ne restaient pas à genoux, mais bref. Et avec le micro ou ma grosse voix, je les aidais à rentrer dans un silence, que j'espaçais les phrases pour que le silence dure un peu plus, etc. etc., etc. Et je donnais des indications, voilà, tu ne penses pas à ton école, tu ne penses pas à tes parents, pour l'instant tu t'essayes de rentrer, vraiment. Parce que je l'ai raconté à un congrès de psychanalystes, vous allez voir après. Et bref, et ces enfants, en fait, très facilement, rentrent dans un temps de silence, et après on se regroupe et on termine par une prière commune. Manière de dire à la fois que nous sommes, que pour entrer à l'intérieur de soi, c'est plus facile de le faire ensemble. À mon avis, c'est ça la définition de l'ecclésia, ou du groupe. C'est-à-dire, c'est plus facile, tous ensemble, de faire le chemin à l'intérieur. Contrairement à ce que disent les gens qui me disent « Oh, mais moi, j'ai pas besoin de vous pour prier, je prie tout seul mon œil. » Enfin, non, j'ai pas l'air de juger, mais enfin, je sais des soucis. Et bref, cet enfant, en sortant, me dit « Ah, Jean-François, il faut que je te dise, j'ai vécu un truc incroyable. » Je lui raconte moi. Et alors là, il me raconte la chose suivante. Là, j'en reviens pas. Il dit « Voilà, je suis descendu par un escalier. Il y avait une première porte. Il y avait du bruit derrière. » Toute ma famille était là, je ne suis pas rentré. Il y avait une deuxième porte, c'était toutes mes peurs, je ne suis pas rentré non plus. Il y avait une troisième porte, je suis rentré, il n'y avait personne, je me suis attendu, je me suis assis et j'ai attendu. Sur le derrière, le père Jean-François, les catéchistes à côté, j'ai rien compris, je dis mais vous n'avez pas entendu quoi. Ce gamin, à 8 ans, avait fait toute anthropologie biblique. La famille, c'est la chair, le lien de chair. La peur, c'est le psychique. Le spirituel, qu'il avait, dans une image incroyable, dans un scénario incroyable, résumé, comme jamais j'ai pu le résumer, enfin, à part les grandes mystiques, l'attente de Dieu qui n'est pas encore là. Je raconte à un congrès de psy, parce qu'on travaillait sur les images religieuses. Et une psychanalyste qui m'attendait au tournant, qui n'était pas très chrétienne, pas très croyante, m'a dit « Et c'est vous qui avez fourni les images ?» Ah, j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Je reconnais, et je confesse, volontiers, c'est moi qui ai donné les images d'escalier et de portes. Par contre, je ne me rappelle pas très clairement, avoir donné les images de famille, j'ai parlé de famille, mais des peurs, je ne sais pas, ou j'ai dit il ne faut pas avoir peur, ou un truc comme ça. Bon. Mais il n'empêche, cet enfant-là n'aurait pas pu faire cette expérience sans que je lui fournisse les images qui lui ont permis de faire une expérience et de finalement déclarer par un scénario incroyable, si, je ne vais pas raconter, après qu'il m'a dit ça, il m'a dit « je ne peux pas aller jouer au ballon ». Je dis « oui, je vais aller jouer au ballon ». Et ce gamin a fait une expérience incroyable. C'est ça, j'appelle le désir caché, inconscient que nous avons de Dieu, mais qui serait resté inconscient et caché si les images, c'est ça la catéchèse d'ailleurs, c'est ça la rencontre avec l'écriture en fait, si les images que j'avais fournies n'avaient pas permis de donner corps à cette expérience-là. Racontez le déluge aux enfants. Ils vous regardent avec des yeux ahuris. Entendez les réponses qu'ils font. Ça devait sentir mauvais là-dedans. Est-ce que les termites mangeaient le navire? Et comment faisaient les lions? Ils ne mangeaient pas la gazelle? Voilà. C'est-à-dire des questions hyper infantiles. Mais ces questions infantiles cachent une appropriation des images qui va rejoindre ce que j'appelle le désir que nous avons tous du religieux. Freud disait que les enfants inventent des théories sexuelles infantiles. C'est tout à fait vrai. Il a fallu, pour que nous accédions au mystère même de la vie, passer par différentes représentations, vraies ou fausses, de la manière dont les enfants viennent au monde. Je suis convaincu que les enfants ont tous des représentations religieuses infantiles. Et nous avons tous un fond de représentation religieuse infantile qui a été fourni par les images qu'on vous a données et que, enfant, dans la synagogue, au temple ou à l'église, vous avez avalé comme ça, sans vraiment trop comprendre, jusqu'au jour où vous avez modifié. J'ai une amie qui est catéchiste à Gap et qui, chez les catholiques, là, ça se passe, quand on lève le Saint-Sacrement, là, excusez-moi, je parle qu'aux catholiques, il n'y a que eux qui comprennent, quand on lève le Saint-Sacrement, tout le monde se baisse devant le respect de la présence réelle. Donc les gens, ils ont les yeux sur les bancs. Et elle pensait que Jésus passait sous les bancs. Oui. C'est-à-dire, ça ferait rire tous les protestants, ce genre d'histoire. Alors évidemment, elle disait, ah, je l'ai encore loupé. Mais c'est comme les enfants. Mais je suis sûr que vous avez les mêmes dans vos églises et dans vos synagogues. Hein. C'est-à-dire, chacun invente des trucs. Hein. Je ne parle pas des mots latins qu'on a transformés et qu'on croyait que c'était l'asperge, je ne sais pas quoi. Enfin, d'ailleurs, tout le monde sait, d'accord, ok. Et cette femme, elle a mon âge maintenant, elle me dit, au moment de la messe et de la consécration, l'hostie se lève, je baisse les yeux, je me dis, non, c'est pas vrai, il n'est pas dessous. Mais elle y pense quand même. Parce que ces traditions religieuses infantiles sont le terreau sur lequel s'est construite une relation, comme ça, de l'enfant avec la révélation, avec ce qui va être révélé. J'avais dit que je prenais trois exemples, donc j'ai pris la Samaritaine. Va, appelle ton mari et reviens ici. Un autre exemple, au paralytique. Prends ton grabat et marche. Et il ne dit pas, laisse là ton grabat et marche. Non, prends ce qui te croit qu'il ne te fait pas marcher et tu vas marcher avec. Pas bien, parce que c'est lourd, mais tu vas marcher avec. C'est-à-dire, quand Zachée, qui est petit de taille, est sur l'arbre, et qu'il descend de ton arbre, je vais aller manger chez toi. Descends de ce qui t'isole des autres hommes et revient dans le groupe, etc. Et je pourrais vous raconter qu'à chaque fois, le Christ, et il n'est pas psychanalyste, il va parler à l'endroit où ça fait mal. Parce qu'à cet endroit-là, l'homme attend, l'homme entend, l'homme attend comme mon gamin dans sa troisième, derrière sa troisième porte. Nous sommes en attente d'une rencontre dont nous ne savons rien et qui n'a pas encore eu lieu. Et dont nous attendons tout. Comme le cantique des cantiques. Elle passe son temps à le louper. Quand il arrive, elle est couchée, elle a lavé ses pieds, il frappe à la porte, c'est-à-dire presque plus intimement, il frappe presque sur son corps. Hein. Le texte est extrêmement précis sur le plan sexuel. Hein. La mire qui découle, etc., du verrou, de la porte, enfin bon. Tout le monde a compris, on n'a pas fait de dessin. Et bon, elle est donc, elle frémit dans ses entrailles du désir pour cet homme. Le temps qu'elle se lève, qu'elle remette ses chaussures, etc., il descend, il est parti, elle interroge les gardes, ils ne l'ont pas vu, il est derrière, etc. C'est ça, le désir de l'homme qui veut rencontrer celui qu'il n'a pas rencontré et sans lequel il ne peut pas vivre. Et c'est là que j'en arrivais à cette phrase aussi qui a été... Alors, la phrase la plus fréquente dans l'Évangile, c'est, dont on pourrait trouver l'équivalent dans l'Ancien Testament, qu'on traduirait autrement, c'est cette petite phrase, « Ta foi t'a sauvé ». C'est pas le Christ qui dit, « Moi, je suis fils de Dieu, donc je viens, toi t'es guéri, super, ça marche impeccable entre nous. » Pas du tout. C'est pas, « Parce que ma présence est suffisamment divine, que t'es... » Non, non, c'est... Quelque chose que tu as, que je vais désigner par la foi, et qui s'active quand je suis là, et qui donne le salut. Ça renverse complètement la situation. Hein. C'est pas Jésus qui vient avec sa grande puissance, etc., parce que je crois qu'il faut quand même travailler sur la toute puissance et de Dieu et du Fils. C'est pas Dieu qui vient avec toute puissance, non, c'est quelque chose que Dieu vient activer, ou Dieu à travers son envoyé, peu importe, il vient à ta, le plus important, c'est ce ta foi t'a sauvé. Alors c'est là qu'il faut faire une différence entre croire et foi. C'est clair jusqu'à maintenant? Il y a interrogation écrite à la fin, donc prenez des notes. Hein. Ta foi t'a sauvé. C'est Théobald, c'est Christophe Théobald qui parle très bien de ça. Là. C'est un bon théologien jésuite. Ta foi t'a sauvé. Quelque chose que tu as, qui s'active, qui dormait en toi, qui s'active, qui est ta capacité de te jeter dans la confiance. Moi, je fais une grande différence entre les croyances et les fiancés, entre la croyance et la foi. Pour moi, ça n'a rien à voir. La croyance, j'allais dire, croire, hein, l'irrémédiable besoin de croire, ou l'incroyable besoin de croire. C'est un bouquin de Sophie de Mijola, je crois, c'est une psychanalyse. C'est un bon bouquin, psychanalyse. Une psychanalyse, l'incroyable besoin de croire. On a absolument besoin de croire. J'ai besoin de croire que vous étiez ce soir présent à la réunion, et c'est pour ça que j'ai pris le train. Vous avez besoin de croire que j'étais... espérons intéressant parce que vous êtes déplacé, etc. Vous avez besoin de croire, sinon vous ne seriez pas là, sinon, etc. Il n'y a qu'un qui ne, absolument qui ne croit plus, c'est le dépressif. Le véritable athée psychique, c'est le dépressif. Alors lui, il ne croit pas. C'est le véritable athéisme psychique, hein, je ne parle pas d'athéisme spirituel, je parle d'athéisme psychique, c'est le dépressif. Il ne croit plus que le soleil qui se lève peut apporter sa lumière et sa chaleur, il ne croit plus que l'autre peut être un secours pour lui, il ne croit plus, voilà, mais il ne croit pas. Mais actuellement, nous avons plutôt affaire à des croyants subjectifs, psychologiques. Et la paroisse, elle est faite, en gros, à part deux ou trois que j'ai repérés, mais peut-être que je ne connais pas tous les cas des hommes, hein, à des croyants subjectifs. Actuellement, dans la première phrase que j'ai dite, la sortie du religieux s'est transformée en difficulté d'être soi. On a régressé en croyance subjective, qui est une forme commode de s'accommoder d'un certain nombre de choses. Mais par contre, à un moment, il va falloir passer à un autre registre. Psychologique que nous avons de croire que ma mère m'aime, que quand même, malgré tout, que la vie, voilà, grosso modo, etc. C'est se croire, et se croire est lié à un besoin. Comme je vous le dis, de celui qui renonce au croire, de fait, c'est le dépressif, c'est le mélancolique, c'est celui qui, effectivement, qui renonce. Le croire fait partie, c'est ce que les psychanalystes appellent, qui est très très beau d'ailleurs, l'illusion partagée de la mère et de l'enfant. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est très intéressant et très important, l'illusion. C'est pas une erreur. Il y a une différence entre l'erreur et l'illusion. L'illusion permet d'attraper le réel comme jamais on attrape le réel. C'est Freud qui disait lui-même, on attrape la carpe, la vérité de la carpe avec le mensonge de l'hameçon, de l'appât. Pour attraper le réel, il faut du fictif. Il faut de la culture pour Freud. C'est plus facile d'aborder le réel avec une scène de théâtre ou un bon film ou un roman que de l'aborder directement. C'est pour ça que la culture, toutes les formes, est très importante parce qu'elle donne un fictif dans une manière, le mythe, le langage mythique. C'est là que nous sommes actuellement privés, nous sommes dans un hors-mythe actuellement, permet aux gens d'accéder à un certain réel. Pas complètement, le réel nous échappe complètement. Mais il empêche le besoin psychique dans les croyants. Nous sommes actuellement dans des croyances. Et comme je vous l'ai dit, nous avons inventé des croyances subjectives commodes. Les gens, ils ont des idées de la Vierge Marie. Alors, chez nous, les catholiques, on a ce qu'il faut. Ça marche bien. Là. On a favorisé les croyances. À cet égard, les réformés ont été plus exigeants que nous. Je reconnais. Là, j'ai fait un petit effort, hein, quand même. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, je le pense en plus. Oui, parce que nous, on s'est autorisé à la religion populaire, et de fait, on est souvent dans la croyance. Le problème, de toute façon, il y a un va-et-vient permanent entre la croyance psychique et un autre registre, qui relève non pas d'un besoin que j'ai, hein, le désir ne se satisfait jamais, il se nourrit de lui-même. Que le besoin, une fois satisfait, satisfait. Une fois que j'ai fait mes actes rituels religieux, je suis tranquille pour la semaine ou je ne sais pas quoi. Hein. Tandis que le désir, c'est ce qui me tient, c'est ma signature. Rappelez-vous, c'est la blessure. C'est cette manière dont il y a eu une parenté profonde entre mon désir, mon vrai désir. Je ne sais pas quel est mon vrai désir. Je pense que quand je verrai Dieu, je dirai, c'est toi que je cherchais. Je peux vous raconter une petite histoire, elle est à la fois, elle m'honore un peu, mais tant pis, un peu d'orgueil, vous me pardonnerez après, mais elle est vraie. J'ai accueilli, c'est la plus intéressante. J'ai accompagné un ami dominicain qui est mort au mois de mai, le père Bedouel, qui est pour moi, j'ai demandé qu'une chose à Dieu dans ma vie, c'était un ami. Et il est mort au mois de mai, à 72 ans, d'une tumeur au cerveau. On a longuement parlé, de tout, de religieux entre eux, face à sa mort. Et donc, 3 jours avant de mourir, il était à Fribourg en Suisse, dans la communauté de Suisse. En fait, il est mort très lucide parce qu'il était paralysé progressivement, il avait une tumeur au cerveau. Donc, on a parlé presque jusqu'au moment où la morphine, pour qu'il souffre moins, etc. Et donc, il disait dire une chose incroyable, il disait, tu sais, Jean-François, la vie éternelle, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux voir le Père. C'était ta phrase, je veux voir le Père. Mais il n'empêche, à un moment, je pleurais, on pleurait, on riait, on racontait des histoires, on a beaucoup voyagé tous les deux, etc. On aimait beaucoup le cinéma, la littérature, tout ça. Et à un moment, je lui ai dit, et c'est là que je suis passé du besoin au désir, je lui ai dit, je suis tellement content que tu aies existé. J'ai renoncé, parce qu'il m'a dit, en riant, mais avec amitié, comment tu vas faire sans moi? Ça m'a fait pleurer, ça. Bon. Et je dis, mais Guy, je suis tellement content que tu aies existé. Et là, ça a été vraiment, je l'ai donné. C'est-à-dire, j'ai passé du besoin au désir. J'ai renoncé à avoir besoin de lui pour me réjouir qu'il ait été. Mais je vous dis, j'ai beaucoup de péchés à tête. Mais, on est dans l'être. J'arrive à l'avoir. Avoir, c'est le besoin. Il faut que j'ai. C'est du côté du besoin, c'est du côté de l'avoir. L'être, c'est du côté de ce désir. Je vous raconte non pas pour me glorifier, parce que vraiment. Mais je pense que c'est lui qui m'a inspiré. Enfin, c'est lui et sa foi. C'est quand il m'a dit, je veux voir le Père, il m'a dit, je suis heureux d'aller voir le Père. Je me suis dit, mais moi, jamais je dirais ça, quoi. Dans 3 jours avant de mourir, on ment pas tellement. Hein. Je sais pas, peut-être que je le dirais. Hein. Mais lui l'a dit. Et je crois que cette phrase de ce départ, de cette conviction, de cette foi de voir le Père, m'a permis de le donner. Et je suis parti, je souffre de son départ, mais je suis confiant. Je suis absolument confiant. Je vous en parle librement. Parce que, bien sûr que je pleure, je suis triste, il me manque, je voudrais bien partir en voyage avec lui, etc. Tout. Les besoins. On n'a jamais fini. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs la vie d'amis ou même conjugale, à un moment donné, c'est ce qu'on appellerait la vraie chasteté, qui n'est pas l'abstinence. La vraie chasteté, c'est « je suis content que Dieu existe ». C'est exactement le rapport que Dieu a avec nous. Je n'ai pas besoin de toi, en fond. Quand Jésus dit à la Samaritaine « va, rappelle ton mari et reviens ici », on voit bien que c'est de la remettre dans l'existence, dans son existence de femme. Je veux que tu reviennes à la source de ce que tu es. Quand j'ai dit à Guy, j'étais fier d'avoir rencontré cet ami dans ma vie. Voilà. Je suis honoré, c'est vraiment un grand bonhomme, et ça le reste. Et je suis honoré d'avoir été son ami, et je ne suis pas le seul, hein. Il avait beaucoup d'amis, c'est un homme d'amitié. Et d'ailleurs, je n'ai pas été à l'enterrement. Parce qu'il connaissait plein d'évêques, plein de trucs, cardinaux, machin. Donc, je ne me voyais pas là-dedans, bref. Bref, je n'ai pas été à l'enterrement. Et je ne regrette pas du tout. Parce que j'ai l'impression que j'ai fait le... Je vous le dis parce que je l'ai vécu de nouveau, parce que malheureusement, je suis dans les années un peu difficiles et j'ai perdu ma collègue psychanalyste, dont je raconte dans ce livre, à la fin du livre aussi, et c'était plus douloureux, plus de dons. Mais on doit passer du besoin au désir, de la croyance à la foi, se fier en, c'est à un moment se jeter. C'est comme dans mon... J'ai une grosse paroisse de 46 000 habitants, donc c'est une grosse paroisse. Il y a 150 baptêmes, il y a 80 mariages, enfin bon. C'est pas facile. Donc j'ai terminé les mariages de tout le... C'est terrible le mariage. C'est la pastorale la plus rude. Comme maintenant on va marier les homosexuels, ça va compliquer en plus. Donc, non, on va pas les marier, mais on va recevoir les enfants des... Voilà, ça va compliquer un peu la chose. Enfin bref, mais enfin bon, c'est beau, c'est brave loulou que je marie, là je ne suis pas toujours bien sûr qu'il soit dans la foi. Bon. Même je crois qu'ils ne sont pas beaucoup. Bon. Enfin, qui peut juger. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils ont fait à un moment donné dans leur intimité une expérience qui les a dépassés et qui les a amenés dans ce lieu sacré. Quelque chose que j'ai vécu avec toi fait que il y a quelque chose de l'éternité qui s'est glissé entre nous et sacré. C'est pour ça que je pense qu'ils ne se sont pas choisis, ils se sont reconnus. Je leur dis souvent dans les homélies de mariage, je pense que tu penses, voilà, je peux devenir celle que je suis quand tu es là. Et vice versa, évidemment. Et là, on est du côté du désir et de l'être. Et je pense que d'ailleurs, c'est le nom de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé entre Moïse et le buisson ardent. Je pense que c'est là. Cet être, il n'y a plus de l'avoir. Le buisson ne se consume pas. On n'est pas dans l'avoir et dans le besoin. On est dans l'étonnement de l'être. En conclusion, je pourrais en dire plus, mais en conclusion. La foi, au sens général du terme, et je vois bien, il y a des patients qui sortent d'une thérapie avec une nouvelle capacité de se fier à la vie. Ils ne sont pas guéris, en fait. Peut-être que je suis très mauvais comme psychanalyste, hein, comme tous d'ailleurs, mais enfin, ils ne sont pas guéris. Mais ils ont retrouvé une capacité de se fier à. Et je pense que c'est là le terme. Et là, je rejoindrai ce que pense la tradition, à mon avis, judéo-chrétienne. Là, je suis large, mais je le pense. Qui est de rentrer dans une position, et c'est pas une confiance aveugle, un peu béate et un peu amoureuse, non, c'est une disposition extrêmement courageuse, musclée. Pourquoi on a confondu le sentiment et la foi? La foi n'est pas un sentiment. Virtus, en plus de la tradition théologique, c'est une vertu. La foi, c'est une disposition, c'est une manière d'être. Et on rentre dans la foi quand par la blessure, on a vu autrement le réel. On ne peut pas naître à soi-même par soi-même. On est à soi, on est à son désir, on est à son désir, naître à son désir, quand quelqu'un vous révèle notre propre désir. Il faut quelqu'un d'autre, il faut de l'autre pour naître à son désir. D'ailleurs, nous sommes, enfin moi je dis que l'inconscient, par exemple, c'est comme le disque dur. En fait, nous sommes qu'un lieu d'interaction permanent, maman, papa, grand-mère, la famille, la culture, le langage, je sais pas quoi. Nous arrivons dans un bain de culture et de langage, de religion, où que nous soyons. Et que nous sommes, regardez les enfants, là je recevais ce matin, c'était mardi matin, c'est le marché à Istres, je suis à Istres, curé, et c'est le marché, donc on a une messe, il y a beaucoup de gens, et donc après les mamans viennent demander les baptêmes. Et moi je les prends dans les bras tous. Mais bon, j'adore ça, que je suis un peu frustré parce que j'ai pas d'enfants, donc je les prends tous dans les bras, ils adorent ça. Et c'est Et c'est incroyable la façon dont chaque enfant, cet enfant-là qui n'était pas prévu il y a 15 jours ou il y a 3 mois, maintenant qu'il est là, c'est définitif. La vie là, de ce petit loulou-là, qu'il vive 2 jours ou 80 ans, une fois qu'il est là, c'est définitif. C'est pour ça qu'ils sont, elles sont là avec leurs enfants. Elles me montrent, à la fois c'est bien sûr que c'est elles, qui, enfin, c'est eux qui l'ont fait, mais en même temps, dans l'étonnement, dans l'incapacité de dire cet étonnement qu'un être nouveau, et maintenant complètement connu et admis, la vie, c'est, une fois qu'elle est donnée, elle est définitive. Moi j'ai un jeune frère, j'ai toujours jeune frère, et pour le busquer, je disais quand il était plus jeune, c'est quand tu n'étais pas là. Ça me mettait en rogne. C'est pas possible, disait-il, que vous ayez vécu sans moi. D'ailleurs, c'est vrai, vu le bonhomme que c'était. Mais même les enfants entre eux, quand je disais à mon frère, non mais j'étais pas encore né, c'est pas possible. J'ai toujours été là. Il a raison. J'avais interrogé pour travailler sur la vocation des prêtres, des religieuses, sur leur. Sur des phrases comme ça qu'ils ont dit. J'avais un ami libanais qui était prêtre maronite, qui est prêtre maronite, qui travaillait à Rome et qui me disait un jour, donc les Libanais, je vous raconte ça parce qu'ils sont quand même un peu, comment on appelle ça, pas hirsutes, mais drus, enfin ils ont du poil, quoi, voilà, pour le dire, je cherche le mot. Et il voyait son père se raser. Et il disait, il avait 8 ans, il disait, quand est-ce que moi je vais me raser? Parce que tous les petits garçons rêvent de se raser. Après, ça lasse, hein, mais enfin bon, au début, ça donne envie. Après, ça lasse complètement. Enfin bref, il disait, et papa, et son père de lui répondre, ben, quand tu seras grand, tu te raseras. Mais t'es trop petit. Il dit, c'est pas vrai, ça fait très longtemps que je suis là, c'est incalculable. Ça, c'est des phrases de cette religiosité infantile qui a des intuitions d'éternité. Et ça, c'est comme du matériel, hop, à ouvrir à une dimension de confiance par rapport à quelqu'un qui l'attend. Donc la vie, je termine par là, on va arrêter dans 5 minutes. Hein. La vie, une fois qu'elle est donnée, elle est unique, elle est parfaite et définitive. Que vous mourriez tout de suite, j'espère pas, ou dans 50 ans, vous avez été et donc vous êtes. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe quand le Christ, la vie, la présence de Dieu, vient comme ça. Imaginez que la vie en elle-même, la vie plénière, sans barrage, dans une donation généreuse, infinie, traverse notre vie, nous nous levons, nous mettons en route. L'air. Alors, l'air l'ira pour Abraham, et pour nous les chrétiens, Matthieu qui est en train de faire ses comptes avec son ordinateur portable, viens et suis-moi, tac tac. Pas une réunion pastorale, pas une petite réunion préliminaire, même pas 8 ans de séminaire, rien, tac. Ben, c'est vrai, nous on fait des réunions, des commissions, des sous-réunions, des commissions, etc. Là, rien, viens et suis-moi. 2 secondes. Le mec, hop, il se met debout, il lâche l'ordinateur et il suit Jésus. Il quitte ses filets et il suit Jésus. Une immédiateté qui ne vient pas à un moment, genre on lit l'évangile comme si c'était du miracle. Non, c'est pas du miracle, c'est qu'ils ont rencontré la vie. Ta foi t'a sauvé, dira-t-il aux autres. Donc, c'est ce que nous cherchons. La vie. Être vivant de la vie. Quand on nous aimons, nous commençons à être un peu vivants de la vie, parce que quand elle est à côté, avec ses sourires, ses cheveux, sa manière d'être, même ses colères, je suis vivant, comme jamais je l'ai été. Et c'est tellement normal que je crois que je vais rester 80 ans ou 50 ans avec elle. Ce qui n'est pas faux, sauf qu'il va falloir passer par des petites morts, non. De même, et je vais terminer par là, un peu plus sexuel, parce que je suis psychanalyste, donc on va faire un peu de sexe à la fin quand même. Il y a un peu de tout. Quand nous désirons quelqu'un, un homme, une femme, qu'est-ce que nous désirons en fait? À la fois la saisir, hein, quand les deux êtres se retrouvent dans l'intimité, ils essayent d'aller à la source, hein, dans le lâcher-prise du plaisir commun, à la source de la manière dont elle est vivante. Et au moment où il touche à cette source, l'homme pour la femme, et la femme pour l'homme, ça se dérobe. On ne peut pas toucher à la source de la vie de l'autre. Quand on aime quelqu'un, il va en désir, parce que je ne sais pas quoi, sa manière d'être, sa façon d'être vivante, unique, on a envie de la saisir, de la prendre. Hein. Et au moment où on veut s'approcher au plus près de l'intimité, à la fois psychique et charnelle, au moment où je vais saisir, au moment dans la jouissance commune, et bien à ce moment-là, l'autre reste intègre. Il n'est pas pris. Et moi, c'est pour ça que l'amour passionnel, ça va être de tenter d'aller au plus près, de saisir, de faire l'emprise. Je te garde, je vais te manger, je vais te consommer. Voilà, ça, ce sera pas l'amour, ce sera la consommation de l'objet. Mais la véritable amour nous place à un rapage nécessaire que nous ne pouvons pas toucher à la source de la vie, que nous l'entrevoyons chez l'autre, et quand même non, nous approchons sans pouvoir la saisir. On ne peut pas saisir une source avec ses mains. Et on va d'autant plus à la source qu'on est demandeur d'eau. Qu'on a soif d'eau. Qu'on veut non pas se compléter, mais nourrir sa vie. Et pour avoir conscience de nourrir sa vie, il faut bien qu'il y ait un sentiment d'un manque à côté. Alors c'est le deuxième mot qui définit autrement la blessure. Il faut bien que je manque. D'ailleurs, à mon avis, les béatitudes dans l'évangile sont vraiment heureux celui qui manque. Hein, c'est pas une apologie de la pauvreté en tant que telle et heureux le pauvre parce que ça ira mieux après, pas du tout. C'est parce que c'est quand tu manques, donc c'est la blessure, donc c'est ton identité. Chacun de nous manque à la vie, manque de vie. Et nous ne manquons pas de la même manière de vie. Nous ne manquons pas de la même manière de vie. Par contre, c'est celle qui me met en route vers l'autre. C'est pour ça que le sexuel, c'est magnifique. Le sexuel n'est pas réductible au génital. Hein. Je n'ai pas de vie génitale, mais j'ai une vie sexuelle, d'accord. Enfin, on est bien clair. C'est-à-dire, le génital est une expression, une des plus difficiles d'ailleurs, parce que c'est, contrairement à tout ce qu'on raconte, c'est une expression extrêmement délicate et difficile, surtout entre un homme et une femme, entre deux désirs d'ordre différent, parce qu'on ne se positionne pas de la même manière entre l'homme et la femme, mais il n'y a pas que le génital, il y a multiples manières de partager un plaisir, hein. Donc il y a d'autres, enfin, Freud décrit ça et sexualité, donc on a ce qu'il faut, hein. Et il y a de la place pour des expériences de plaisir commun, pas des jouissances, mais de plaisir commun. Mais n'empêche que je ne peux me recevoir que de l'autre. Et l'autre, et je termine par là, je ne sais pas encore, mais je devine que la manière dont cette femme bouge, le mouvement de son corps, la douceur de sa voix, dit quelqu'un d'autre qui se cache juste derrière elle, qui Dieu. Ou le paysage, tout à l'heure j'écoutais... les suites de Bach en regardant, je sais pas quel, c'est le long du lac d'Annecy, donc on arrive long. Hein? C'est avec les bains. Avant, il y avait une couleur incroyable, il y avait cette espèce de couleur un peu métallique du soir, là, puis il y avait, hop, juste un petit canard qui faisait, voilà. Vous allez me dire, je suis un peu romantique. Non, mais j'étais très bien dans le train, là, qu'est-ce que je vais leur raconter, tout ça. Et j'écoutais Bach, et il y a eu, et c'est ça, il y a eu comme un accord. Je me suis dit, comme ça m'arrive maintenant parce que je le sens, je suis à ma place, là. Je suis juste à ma place, je suis là juste où il faut. La musique, je vais à Annecy, ça va, ça me soucie pas trop, je n'ai pas de réunion pastorale ce soir. La couleur métallique, c'était juste là, c'était cet accord de résonance qui fait que je me nourrissais que les choses soient. Et bizarrement, nous avons à convertir notre besoin de guérir en désir de vivre. Et je m'arrête par là. Ça fait à peu près une... Voilà. Voilà, merci de votre attention. posez des questions gentilles. Hein. Soyez pas désagréables.
Hein. Bien sûr, un grand merci. Je pense que vous êtes bien là où vous êtes ce soir. J'espère que vous le sentez et j'espère que nos amis le sentent. Mais moi, je l'ai senti dès que je vous ai vu sur le quai de la gare. Je me demandais quel visage, qu'est-ce qu'il y avait derrière le visage. Un prêtre, psychanalyste, reçu en ayant lu votre livre « Les chardes dans la chair » qui est quand même particulièrement plus chrétien, je voudrais même dire catholique, vis-à-vis des saints, etc. Je me disais, quel homme vais-je voir ? Pour moi, en plus, une personne juive, comment est-ce qu'on va passer cette soirée ? Mais je n'étais pas inquiète, du tout. Mais je me posais la question. Et justement, tout à l'heure, alors, merci parce que je vous trouve merveilleusement ouvert à la vie. Et ce soir, tout ce que vous nous avez dit et même appris, c'est fantastique. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de retours. Mais je voulais juste vous dire que tout à l'heure, je n'avais pas tout lu ce que je voulais vous dire. Mais je voudrais juste le dire maintenant parce que je l'ai écrit il y a 2-3 jours. Et vous avez presque commencé par ça. Je vous disais, croyez-vous que cette blessure, hormis celle de l'enfance ou de l'héritage familial, puisse être la nostalgie de Dieu lorsque cette nostalgie se lève dans notre âme? Et vous avez en grande partie répondu à cette question. Parce que voyez-vous, c'est une lecture que j'ai faite et si notre ami Norbert, mais d'autres aussi étaient là, nous aimons beaucoup ce livre du Rabbi de Gur, qui est un homme qui a vécu il y a 2 siècles, qui était un chassid, un homme de joie, mais dans un tel malheur pour le monde juif, il cherchait comment pouvoir mettre de la vie dans le cœur et dans l'âme des juifs persécutés en Europe centrale, déjà à cette époque, 2 siècles en arrière. Et il a écrit, c'est magnifique, c'est la langue de vérité, Sfat Emet. Et il est parti là-dessus avec la sortie d'Égypte, cette libération, cette liberté, avec toute la responsabilité qu'il y a derrière, mais tout ce don de Dieu pour vivre. Mais il a surtout parlé de ce point d'intériorité. J'aimerais vraiment que vous lisiez ce livre. Parce que j'ai fait, à chaque fois que j'ai lu votre livre, je faisais un lien avec le Rabbi de Gur, mais autrement, tout autrement. Parce que lui, c'était tout de suite à parler d'espérance et ne plus parler trop de souffrance. Mais que malgré tout, pour être, il ne dit pas qu'il faut souffrir, il dit que de toute façon, oui, il y a la blessure, oui, il y a la souffrance, mais que ce point d'intériorité, il est là. Et Catherine Chalier le développe d'une façon fantastique. Et là, j'ai retrouvé dans votre conférence des mêmes liens que j'avais ressentis. Et j'en suis vraiment très heureuse. Et puis alors, à côté de cela, bien sûr, tout l'aspect magnifique du désir, du besoin de l'être, de la voix, du buisson ardent, tout ça, c'est magnifique. Alors, je donne la parole, bien sûr, aux amis qui veulent commencer ou continuer. À poser. Voilà, monsieur.
Je vais dire, je veux bien l'histoire du vase chinois au début. Avec quelque chose qu'on entend assez souvent maintenant, c'est heureux les blessés, heureux les fissurés, ils laissent passer la lumière. J'aime bien cette nouvelle, peut-être, béatitude. Non, je sais pas. Il n'y a pas de question ? Non. Non, merci.
Peut-être j'en ai deux. Je sais pas si ça passe. Attention.
je vois cette dynamique être à voir spiritualité, psychisme, le spi, le psy, cette nécessité, enfin, ou cette réalité de les mettre en relation. Il y a toujours une relation entre désir, besoin, foi, croyance, parce que de toute façon. Et par ce point d'intériorité, je crois qu'il va se développer, et vous n'en avez pas trop parlé, cette relation donc de l'être à l'avoir et de la spiritualité psychique, il va se développer l'intuition, l'inspiration et l'intuition. Et je pense que même les scientifiques aussi en parlent, à un moment donné, à chaque fois, dans les différents moments de notre vie, le dernier petit coup de pouce, après avoir utilisé la raison, son imaginaire aussi, hein, l'intuition va être cette petite énergie magique qui va donner cet équilibre entre l'être et l'avoir, parce qu'il ne s'agit pas non plus, ce qui serait dangereux, c'est de commencer un véritable combat entre l'être et l'avoir. On va pas refaire ce combat entre le spirituel et la psychologie, au contraire, il faut les associer, il faut harmoniser l'individu. Et un être harmonieux, c'est un être qui s'accepte dans ses besoins et dans ses désirs. Et pour s'accepter dans ses besoins et ses désirs, je pense que l'intuition, le développement de l'intuition, est un élément certainement important. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je n'ai pas réfléchi à l'intuition, mais je n'ai pas eu le temps de tout développer, mais la marche d'entrée, c'est le consentement.
Je n'ai pas à tout développer, évidemment. Alors, c'est facile après d'imaginer, de placer l'imaginaire, hein, et le spirituel, etc. Hein, bon. Mais tout ça, évidemment, c'est pas étanche. C'est un, comme vous l'avez dit très nettement. Et alors, par contre, moi, je place le consentement là, dire ce consentement à l'être. Pour que les choses soient. C'est comme le tremplin. On quitte le besoin qu'on avait d'établir un certain nombre d'un réseau de croyances dans lequel. Parce que j'ai pas placé là le problème de l'angoisse, enfin des choses plus lourdes. Bon, c'était pas le propos ce soir. Mais disons qu'il va falloir que quelque chose aussi de dépassement de l'angoisse, et non pas la négation de l'angoisse. Actuellement, on est quand même beaucoup plus dans des délits, actuellement, dans beaucoup de délits. On pourrait passer aussi vie et mort, c'est-à-dire, vous voyez, je vais le dire après. Actuellement, les gens ne veulent plus mourir. Donc, ils acceptent. Parce que l'idée que développe un de mes amis psychanalystes, c'est qu'on est passé, et d'ailleurs, à mon avis, la Shoah a été déterminante. C'est-à-dire, on peut, même chez les chrétiens, on ne peut plus penser autrement après la Shoah. C'était pas le sujet de ce soir dont je n'ai pas parlé, mais je suis en train de lire une thèse de Jacques Arène sur la psychanalyse du deuil de Dieu. Donc, on est passé à une forme extrêmement intéressante. C'est un des grands débats qu'on a entre psychanalystes croyants sur le problème de la toute-puissance, qui est à mon avis le problème. Mais le renoncement à la toute-puissance de Dieu, c'est de passer par un Dieu fragile, de consentir à une impuissance de Dieu. C'est Thiel Issoum qui disait aide-moi à t'aider. Ouais. Donc on est en train de ce qu'on appelle en psychanalyse le travail du négatif. Il y a bizarrement d'ailleurs en psychanalyse on fait ça. On va travailler sur le négatif. Au fond, on va travailler que sur des choses qui vont me tenir comme ça, je vais me tirer vers un Dieu puissant. Quand je cite le credo à la messe ce dimanche dans ma paroisse, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, déjà là, rien que là, ma raison elle éclate, quoi. C'est pas que c'est pas vrai, mais de quoi parle-t-on, à qui parle-t-on, de quoi, qu'est-ce qu'on confesse. Cette première phrase du credo, je parle pas du reste. De toute façon, je décroche au bout de deux articles en général. Je me raccroche à la résurrection de la chair. C'est qu'à un moment donné, comme dirait Clavel, Dieu est du nom de Dieu, on sait pas où on en est dans le credo. Enfin, c'est un moment de délire, quoi. Mais c'est vrai, tout le monde est là, je crois en Dieu, toi, c'est plutôt le créateur du ciel et de terre. Rien que les deux premiers articles, personne ne comprend rien à rien, et on est tous en train de délirer collectivement. Je le crois, hein, mais c'est pas, c'est, ça, ça dépasse complètement mon entendement. Par contre, il y a un moment, je suis juste consentir. Mais le consentement, ou peut-être l'intuition, chez Bergson, tu vas pouvoir voir, soit effectivement, c'est un moment comme une espèce de renoncement, comme ça. Renoncement, et ça va passer par une certaine mort, mais le mot est difficile à prononcer, parce que de quelle mort parlons-nous, qui va consentir non plus, qui va déconsentir à ne pas avoir prise dessus pour arriver à un consentement. Mais pourquoi pas l'intuition, oui. Mais l'intuition, ce serait pas assez fort. Il faut un acte, enfin un mouvement, voilà, une motion, pour passer à un consentement. J'ai envie de vous lire quand même, parce que après je vous dirai qui c'est. Je l'ai refermé juste. Je voulais vous lire ça à la fin, puis ça ne me revient maintenant. Parce que c'est un texte qui est tout court. Là, ouais, c'est ça. La question primordiale n'est pas absolument de savoir si nous sommes contents de nous-mêmes, mais si de principe nous sommes contents de quoi que ce soit. À supposer que nous disions oui à un seul instant, consentement. Du même coup, nous avons dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à l'existence tout entière. Car rien n'est séparé de rien, ni en nous-mêmes, ni dans les choses. Et donc, si notre âme, à un instant, a comme une corde vibré et résonné de joie de vivre, alors toutes les éternités étaient nécessaires pour que cet unique événement ait lieu. Et toute éternité était dans ce seul instant de notre oui, consenti, sauvé, justifié, affirmé. C'est Nietzsche. Comme quoi, s'il y avait un grand religieux, c'était bien dit. C'est-à-dire, là, pour moi, c'est extrêmement important au niveau philosophique, non seulement l'étonnement philosophique, mais le consentement. Cette résonance, que j'appelle la résonance symbolique. Par exemple, je procède par des baptêmes par immersion. On a une église toute neuve, nous, à Istres. C'est des villes, que c'est des petits villages provençaux qui se sont qui ont grandi énormément. Donc on a des nouvelles églises, donc on construit beaucoup d'églises dans le diocèse, parce que nos églises sont trop petites. Donc on a une église neuve, allez voir d'ailleurs paroisse Istres, vous verrez, c'est une église très originale, en pierre de taille recouverte de cuivre, ovale, et on a un baptistère par immersion. Donc on a renoué le baptême par immersion, comme nos frères en début de l'église. Donc on baptise les enfants nus dans l'eau. Donc je les plonge par la tête, puis je ressors quand ils sont tout bleus, quoi, enfin gros. Bref, je mets les enfants dans l'eau. Et il y a des adultes aussi, les catéchumènes, on les plonge dans une piscine. Et j'ai fait ça parce que on a affaire à une population extrêmement déchristianisée, très pauvre sur le plan culturel. Donc, la mystagogie, ce qu'on appelle la pastorale par le geste, est extrêmement parlante. Et je regarde la tête des parents quand je plonge leur gamin dans l'eau. Ils sont en train de consentir à ce que c'est leur enfant et pas leur enfant. Il m'a dit, ça me rappelle quelque chose. Bah oui, évidemment, la naissance. Ah, l'enfant, il sort tout nu de l'eau, tout dégoulinant. Donc je le présente comme ça et je le donne au père. Je recommence le mouvement. Je demande à la mère de me le donner. Je le plonge dans l'eau, au nom du Père, du Saint-Esprit. Je le ressors de l'eau, tout dégoulinant, et je le donne au père. Et ça, c'est pas la peine de faire une théologie, ça y est, c'est dit. Et là, il est en train de consentir à. C'est à la fois le sien, pas le sien, il vient d'ailleurs, il va plus loin, etc. Et donc, ça, c'est la marche, c'est la porte d'entrée à une sorte d'une croyance qui vienne pour une demande de protection, parce que je comprends bien. Je crois un môme, en 2012, je veux dire, bon, c'est pas simple. Puis c'est les parents, je veux dire, ils ont un machin tout fragile, là, tout mignon, et un peu exigeant, quoi. Bon, et un peu braillard, surtout. Ah, mais j'y connais rien. Mais donc, moi, je suis en train de signifier, par une symbolique, une ouverture à une autre dimension. Et j'aime que dans le rituel, pas le ritualisme, que dans le rituel on retrouve des gestes comme ça, pour que les gestes disent le mystère dans lequel on insère l'être. Et je dis, c'est votre enfant et il est enfant de Dieu. Il est à la fois le leur et pas le leur. Et donc on rentre. Alors ça vient réveiller, comme vous l'avez dit à l'instant, une attente pas obscure, une attente cachée en eux. Et qui avait besoin d'une rencontre avec un symbole pour s'ouvrir et s'épanouir. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, à Istres, au marché ce matin, enfin, pas ce matin, mais d'autres matins, j'entendais dans la rue, « Ah, mon père, ah, mais il paraît que vous avez inventé un baptême à la Provençale. Comme le tomate. Ah, j'ai dit, non, c'est le baptême par immersion. Ah, je ne sais pas ce que c'est que l'immersion, mais c'est bien, vous plongez le bébé tout nu. Ben, j'ai dit, oui, c'est ça. Et donc, les Istriens se sont appropriés par le baptême de la Provençale, ça c'est typiquement provençal, ils sont toujours en train de récupérer tout ce qui passe. Un baptême qui est tout à fait ancien. Et par contre, j'arrive pas à obtenir, ça c'est une résistance ritualiste. Ils viennent avec le machin du baptême, enfin la robe du baptême, ils viennent avec, parce qu'il faut qu'ils sortent de la maison avec la robe du baptême, pour que les voisins le voient. Et moi, j'aimerais qu'ils viennent sans et qu'on change sur place. Donc j'ai une table à langer, j'ai tout, tout est classé. J'ai un canard dans l'eau et tout. Bah, j'ai baigné plus d'enfants que vous n'avez jamais baigné d'enfants, hein, depuis 25 ans. Au début, je les ai un peu ratés, mais maintenant, c'est... Non, mais je dis ça en plaisantant. D'abord, c'est hyper ludique. On a quitté le sérieux d'une espèce de... Comme ça, c'est quelque chose qui les... Moi, les gens viennent de mon église, mais ils se sentent coupables. Ils sont coupables. Ils savent pas très bien de quoi. Ils sont coupables d'être. C'est grave, hein, vraiment. Avant, si vous voulez, on vivait la culpabilité collectivement. Donc on était ensemble, catholiques, machin, protestants, tout ça. Chacun faisait ses oignons, bon, on tenait plus ou moins, c'est plus ou moins formel, plus ou moins moralisant. Ça, c'est, ça a complètement éclaté. Maintenant, on a des gens qui sont tout seuls, qui vivent à nu le fait d'être soi. Donc il faut qu'on les réinsère, sans les moraliser, dans un groupe où on est ensemble, et on est choisi pour être ensemble. Ça la passera d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, après, pour être clair, je m'en fous musulman, enfin, musulman c'est très compliqué, mais disons, voilà, juif, chrétien, protestant, on avance. Il y a un jour, il y a un musulman qui est venu me voir, qui m'a dit, je voudrais faire une surprise à ma femme, elle est d'origine chrétienne, je voudrais qu'on se marie par surprise. C'est trop mignon, quoi. Mais je sais pas quoi faire, parce que... Je dis, ben non, moi, je peux pas me marier comme ça, il faut qu'elle soit d'accord. Ah, mais ça lui ferait tellement plaisir. Ah, on en est là. Ah, excusez-moi. Ah, il y avait d'autres questions.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous faites exploser les barrières. Et ça, c'est... Voilà. Pour réformer, ça fait du bien. Et de savoir que ça peut... Voilà, que ça se passe ailleurs. Et que, voilà. Donc ça me plaît beaucoup. Trois petites choses à partager. La première, par rapport à la toute-puissance. Donc, c'est suite à une question. Qu'on soit bien clair, la toute-puissance n'est pas biblique. Enfin, voilà. Je le dis. Nulle part dans la Bible, on ne parle du Dieu tout-puissant. Nulle part. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on s'est ajoutées dans notre religieux et qui fait qu'aujourd'hui, on en est malade, quoi. On a cette blessure de la toute-puissance qui, en fait, n'existe pas. Hein. On a le El Shaddai, mais El Shaddai, c'est pas le tout-puissant, c'est le puissant. Voilà, hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez beaucoup parlé du cantique des cantiques. Vous avez parlé des préparations des couples au mariage. Et moi, il y a très souvent ce texte qui est choisi par les mariés, hein, des cantiques, viens ma douce, ma colombe, etc. Donc, ils se réjouissent dans le besoin de que l'autre vienne à moi. Et quand on regarde l'hébreu, ce vient, c'est le ler lera. Ce n'est pas le vient, c'est le va. Va pour toi. Et ça, c'est,
Voilà. Quand on découvre ça, et là, on en veut à nos traducteurs qui nous mettent dans nos bibles, viens. Et au contraire, c'est va. Donc ça, c'est exceptionnel, et ça, c'est un autre va comme celui d'Abraham, comme celui de voilà. Donc ça, c'est exactement. Et ça, c'est et quand on dit ça aux mariés, attendez, en fait, là, c'est pas viens, c'est va. Donc une relation à deux, c'est dire à l'autre, va pour toi. Hein? Voilà, on regarde de ce que moi je suis pour toi aussi. Voilà. Et la troisième petite chose, on a parlé des béatitudes. Vous avez dit heureux celui qui manque. Et encore une fois, ce heureux traduit du grec, c'est le ashrei hein, de l'hébreu hein, qui est en marche. Donc on retrouve encore ce que vous avez dit. Celui qui est finalement, c'est celui qui est en marche, celui qui avance. Hein. Donc en marche, toi qui manque. Voilà, cette blessure qui peut nous faire naître à notre révélation. Donc voilà, tout ça, c'est des petits ajouts personnels. Moi, simplement, vous avez parlé des personnes dépressives. Alors, comment faut-il faire pour que les personnes dépressives suicidaires et qui font des tentatives de suicide, mais volontaires, qui veulent se suicider, qui bien sûr, ça n'arrive pas heureusement, comment leur donner l'envie de vivre la vie, de penser que la vie vaut d'être vécue, et comment leur donner cette soif de vivre malgré les épreuves que tout le monde subit un jour ou l'autre. J'ai eu ça dans ma famille et c'était trop dur.
Évidemment, je vais vous décevoir parce que ce que j'ai dit là est philosophique et général et universel, enfin, tant d'être universel. Mais en matière de thérapie, les choses sont tellement individuelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille après sur à quel moment il y a eu cet écart, et puis ensuite cet écart, ce divorce, cet éloignement, cette baisse de croyance, baisse de foi, enfin de croyance en la vie. Mais il y a tellement de formes de dépression. Hein. Dépression, c'est un mot qui couvre une telle réalité clinique entre la mélancolie que vous semblez décrire, qui est de fait toujours suicidaire, toujours, avec dépression grave, qui ne sont pas toujours suicidaires, mais qui ont des formes de suicide. Bon, mais l'anorexie est une forme suicidaire, de destruction. Bon. Ce que vous traitez là, c'est très compliqué à traiter, puisque c'est à la fois une question technique de la relation entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. Ce qu'on peut dire et qui va vous horrifier, c'est que tout le monde n'arrive pas à unir ces deux pulsions. Voilà. Tout le monde n'y arrive pas. C'est un enjeu très... On peut aider, on peut étayer, on peut construire autour, etc. Mais il y a un choix à un moment donné qui relève que de la personne. Mais les thérapies fonctionnent quand même, on arrive maintenant à aller loin. Et moi je défends même les thérapies médicamenteuses. On arrive quand même à lier, à travailler sur l'anxiété, on arrive à lever. On travaille par les périphéries, hein, les périphéries des symptômes, on travaille sur l'anxiété, on travaille sur l'angoisse, on travaille. Mais après, il y a un choix à faire. Et les gens qui le font, comme dit Cyril Nix, par la résilience, alors qu'ils sont dans des... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune proportionnalité entre le drame et le tragique. D'accord ? Il y a des gens qui ont été très abîmés traumatiquement et qui s'en sortent. Il y a des gens qui sont peu abîmés et qui ne s'en sortent pas. Alors ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, qui est quand même aussi importante, c'est que un dépressif est aussi un symptôme familial. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les enfants symptômes, les enfants reponges. Enfin. Donc il y a quelqu'un, ça arrange tout le monde inconsciemment qu'il soit malade. Donc maintenant, on s'aperçoit qu'il faut traiter l'environnement. Beaucoup plus que la personne seule. Et ça, c'est très difficile parce que ça remet tout le monde en cause. Voilà. Et que, quand il y a des familles qui véhiculent des dépressions ou des deuils anciens, il faut qu'à un moment quelqu'un décide d'arrêter comme ça. Alors, mes réponses sont un peu cruelles parce que elles sont de l'extérieur, mes réponses. Hein. Après, il faut rencontrer la personne et les thérapies qui fonctionnent au sens que la personne, à sa manière, pas dont les autres voudraient qu'elle soit, pas dont, surtout la famille. Il faut qu'il y ait une prise en main extérieure à la famille, toujours. C'est pour ça qu'on isole souvent les personnes, pour qu'il y ait une décontamination, non pas que la famille soit mauvaise, mais il y a une nocivité inconsciente dans le fait que ça arrange la famille. Bon. Mais vous voyez, ces réponses sont maladroites et pas beaucoup d'espérance pour vous. Mais ça se travaille, enfin, il y a des choses qui se travaillent au corps. Vraiment.
Bonsoir. Je voulais poser une question en rapport avec la notion liée de foi et du verbe se fier. Je ne suis pas ni philosophe, ni psychanalyste, je n'ai pas de formation, mais je pose cette question. Oui. Il y a quelques années, j'ai lu un livre de Jacques Ellul qui s'appelle « La foi au prix du doute ». La lecture de ce livre m'a bousculé, voilà le terme exact. Parce qu'en effet, je crois qu'on ne peut pas... ce que j'ai aimé dans Jacques Ellul, ce que j'apprécie aussi dans votre prise de parole, c'est le refus des faux semblants. Et alors, ma question était simple, et simplement celle-ci, où, dans votre esprit, situez-vous le doute, ou les doutes, ou le verbe se douter, dans ce schéma, s'il vous plaît.
Moi, je ne sais pas comment je suis construit, mais alors... j'avais envie d'écrire un jour un article, c'est prêtre et donc forcément croyant. Ça m'énerve d'imaginer que parce qu'on est prêtre, on est complètement, on a fumé la moquette du credo, quoi. Je veux dire, moi ça m'énerve. Ça. Je pense qu'en fait il y a beaucoup d'agnostiques chez les prêtres qui veulent pas se reconnaître. C'est pour ça qu'ils sont devenus fonctionnaires. Voilà. Là je suis méchant, hein, mais. Non mais quand je vois, je vous dirai pas dans le cas si je vous avais, je vous l'ai dit dans le deuxième, mais enfin que je vois mon évêque, il est là, il a tellement l'air sûr, quoi, je veux dire, il n'y a pas de place pour... Moi je le fais souvent, je l'ai fait dans mon analyse d'abord, j'ai fait comme si j'étais pas croyant, et je le fais souvent. En fait, il y a quelque chose qui est maintenant articulé à mon être, qui est l'existence de Dieu. Voilà. Par contre, après, je me mets toujours en train de travailler sur la relation que j'ai avec lui, comment je suis, etc. Mais je me fais souvent la position, voilà, de... Et si je ne croyais pas ? Et, je suis tellement... Je dis même, si j'arrêtais de croire, ça n'empêcherait pas Dieu d'être. Non, mais... Ça me fait tellement de bien quand je me dis ça. Et après, toute la... Alors, moi, c'est pas uniquement le doute, c'est aussi la révolte. Moi, c'est maintenant plus la révolte, c'est plus la révolte. Par rapport à l'injustice, par rapport à des cas de... Voilà, il y a des moments où on voit des familles qui sont vraiment... Tout à l'heure, à matin à la messe, à 9h, là, j'ai une famille, ils ont perdu un gamin il y a 2 ans. Électrocutés dans la piscine à 14 ans. Hein. Ils sont en enfer, ces gens. Ils sont en enfer. Ils seront toujours en enfer. Samedi, je vais faire une intervention sur SOS parents brisés. J'accepte toujours d'y aller, mais j'ai pète de trouille. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Il y a un tableau au fond avec tous les enfants qui sont morts, de 20 ans à 2 mois. Quoi. C'est un monde, hein. C'est une planète, ces gens. Enfin, je sais pas si, excusez-moi s'il y a des gens parmi vous, là, ici. Je le dis avec respect. J'y vais. Parce que je suis leur frère, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je sais, je peux pas parler comme ça. Hein. Et ils demandent de parler sur la fratrie dans la Bible. La fratrie dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Ça commence. Le bazar. Jacob et Ésaü. Mais je vais leur dire quand même. Mais j'ai devant moi, c'est les plus grands blessés. Enfin, excusez-moi, mais perdre un enfant. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais je ne veux pas me démissionner, mais quand j'arrive, il y a un moment où je repars, quoi, disant, genre, dans ma tête, je suis reparti, quoi. Je regarde l'heure pour voir ce qui se passe. Et en même temps, je dis, si on ne les rencontre pas, il faut que quelqu'un les rencontre. Ils ne sont pas tous croyants là-dedans. Hein. Et là, ils inventent des théories religieuses, d'anges, de machins, etc. Bon. Donc là, moi, je me. Moi, je me fais non-croyant avec les non-croyants, croyant avec les croyants, oui, je pleure avec ceux qui pleurent, je ris avec ceux qui rient. Enfin, je veux dire, après, moi, je... Par contre, ce qui me... la médiocrité, la vulgarité, voilà, là, je suis furieux. Toujours. Donc, j'ai fait des baptêmes. J'ai oint à l'enfant, donc, du Saint-Crème. Et c'est un parfum, il est parfumé, ce Saint-Crème. Donc, je le fais sentir aux parents. Elle a reculé en disant c'est dégueulasse. Ouais. Donc là, il y a des limites, quoi. Je veux dire, des limites. Hein. Là, je ne suis pas avec elle. Je ne peux pas jouer avec elle. Après, moi, c'est tellement intéressant de prendre une position plus extérieure, de voyager philosophiquement dans sa tête, dans sa prière. Comme moi, j'imagine, je pense toujours à. Je l'ai raconté à Eliane, mais je pense toujours là, les gens dans les camps qui ont été. Je pense à Étienne Soum parce que je viens de venir. Voilà, c'est incroyable. Elle dit c'est mon plus beau. Je n'ai jamais été aussi heureuse au cœur même du camp. Voilà. Et que d'autres qui étaient désespérés, etc. Je me pose même pas la question comment ça, mais j'essaie de visiter de l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait de ne pas croire, par exemple? Ça ne change rien. Alors si, je peux vous dire quand même une fois, j'arrivais de vacances, je n'avais pas envie de revenir en paroisse. Bon. Espèce de messe tous les jours, tout ça, là, pour l'instant, je suis un peu fatigué, bon. Et au moment de la... Donc là, c'est un truc très catholique que je vais raconter, mais ça va vous plaire, parce que ça va plaire aux protestants et aux juifs. Pour bien donner à manger un peu. Hein. Je lisais Michel Henry, et je relisais J'en suis vivant. Vous avez connu J'en suis vivant, hein. C'est un drôle de prêtre, hein, qui était vraiment loin dans l'interrogation, je vous dis parce que c'est un nom, il est mort en 60, 68, tout comme ça. Et au moment où je célèbre, je m'ennuyais énormément. Mais vraiment. Mais ça vous arrive tous. Hein. Faites pas les saintes mitouches, vous n'êtes pas. Hein. Et donc, et je disais ça, il y a tellement d'histoires chez les catholiques où le prêtre doute de la présence réelle. Hein, vous savez ce qui se passe à ce moment-là, donc vous n'avez pas. Le sens de la bouillir. Je raconte ça exprès pour vous horrifier, oui. Dieu se révèle, je dessine un hostie, enfin, il a dit ça comme ça. Moi, rien du tout est arrivé là-dessus, rassurez-vous, c'était hyper soft. Sauf que, à un très court moment, le sol de l'être s'est dérobé sous mes pieds. Il n'y a plus rien. En fait, on est tellement habitué à ce qu'il y ait, on ne sait pas quoi d'ailleurs, qu'à un moment donné, est-ce que c'était psychique, est-ce que c'était mon désengagement, je pense qu'il y avait tout ça, c'était un mélange de... Mais à un moment, je prenais l'hostie et je disais, oh là là, ça va, il faut que je change ma vie, bon, j'arrête d'être prêtre, qu'est-ce que je vais faire en une seconde, hein. Faut que je téléphone à l'évêque ce soir. Tout prévu. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était, il n'y avait rien. Rien dans rien. Il n'y avait même pas moi, il n'y avait rien. Là, c'est la panique. Ça m'est arrivé en septembre. Alors, je suis dans les deuils importants en ce moment. Donc, je lui dis, attends, t'es aussi dans fréquentation, beaucoup de morts, etc. Bon. Mais. Après coup, je me suis dit, on est tellement dedans, la vie, après, ce qu'on appelle Dieu, on verra. Mais déjà, vivant dans la vie, que comme un poisson dans l'eau, on ne sait pas qu'on est dans l'eau. Quoi. Et quand le poisson sort de l'eau, qui sait qu'il est dans l'eau? C'est pour ça que Michel Henry est très intéressant, parce qu'il fait une parenthèse entre il y a une non-conscience d'être vivant, c'est-à-dire la vie est donnée en tant que telle, et c'est quand elle commence à avoir des ratés qu'on s'aperçoit qu'on était des vivants. C'est pour ça que c'est intéressant, dans le jardin le premier jardin, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme s'il y avait deux accès ou deux modalités à la vie. Le premier passerait par la conscience, la connaissance, le discernement, etc. Et l'autre, ce serait l'accès premier, l'accès de la vie, la donation généreuse, dont j'interroge jamais puisque je vis dedans. C'est au moment effectivement où je crains qu'elle, comme là, ce court moment, est-ce que c'était une angoisse, une panique, mais le sentiment hyper furtif qu'il pourrait y avoir rien, Et à ce moment-là, moi-même, je ne suis rien. C'est ça qui m'a... Après coup, je me suis repassé le film. Hein, c'est vrai que je crois que... c'est même pas que je ne crois plus en Dieu, c'est qu'il n'y a rien. Et je ne suis rien. À un moment. Pas envie de le recommencer. Hein. Mais ça m'a fait mettre en lien avec des choses que des gens ont pu vivre dans des circonstances très, voilà, très ultimes et très extrêmes, etc. Mais moi, ça m'intéresse énormément de ne pas, comme je pense que c'est une dynamique permanente, qu'il faut maintenir une dynamique entre la croyance et la foi, voilà, il faut maintenir une dynamique, il faut même prendre le risque, quoi. Il faut prendre le risque. Bon, on peut vous raconter une anecdote. Parce que chez moi, j'ai plein d'anciens communistes. C'était très rouge chez nous, très 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 rouge. Hein. Maintenant, c'est très très Front National. Ça a basculé. C'est pas la même couleur. Ça m'étonne. Bon, bref. Ah oui, c'est quand même passé en majorité en Front National chez nous. Hein. On est à 20% de maghrébins, donc c'est important. Une grosse mosquée. Donc j'enterre les vieux communistes. Donc l'autre jour, on vient me demander d'enterrer monsieur Intel, que d'ailleurs un nom italien. Et ils me disent, vous comprenez, mon père, pour rester de ses convictions politiques, on ne mettra pas de crucifix sur le cercueil. Bon, je dis ce que vous voulez, mais enfin, pourquoi l'enterrement à l'église alors? Après tout, hein. Elle me dit, ah, mais ça c'est différent, ça il le mérite. la sagesse populaire, c'est incroyable. Je dis, ah bon. Alors il y avait tout le monde. On a un vieux système un peu villageois chez nous, donc il y a encore, les gens se réunissent énormément pour les obsèques, il y a vachement de monde. Donc tous les communistes étaient là, quand je pense quand même la guerre qu'on s'est fait, hein. Ils ont la mémoire courte quand même. Hein. Et le maire, l'adjoint, tout ça. Ouais. Donc je cherchais de quoi j'allais parler, quoi. C'est pas parler de la foi, là, c'est vrai. Donc j'ai cherché ce qu'il avait fait, ce mec, dans la vie. Ces gens-là ont beaucoup travaillé pour la chose commune, pour la res publica. Beaucoup plus que maintenant. Il n'y a plus de communistes, mais il n'y a plus de gens qui s'occupent de la res publica. Alors évidemment, ça a plu à tout le monde que je parle de la res publica, de la chose commune, le souci du bien commun. Mais c'est vrai qu'ils l'ont fait. Ils ont pas mal craché sur l'Église. Bon, on leur a bien rendu, mais enfin, c'était... Voilà, mais pour vous dire comment les choses se retrouvent autrement dans la vie. Donc, comme un vieux, là, il y a 15 jours, on m'appelle pour un mourant. Ça, j'y vais. On m'appelle pas mal pour les gens qui partent. Donc j'y vais, un vieux monsieur, pareil, italien, anticlérical, ne pas entendre parler de l'Église, déteste. Quand on est italien, je comprends. C'est une maladie qui se comprend. Il dit, je prie un peu avec lui, il marmonne, il veut pas trop me regarder, je m'en vais. Je reste dehors, il y a la famille, il y a le fils, et il m'a dit, quand vous êtes parti, mon père m'a dit, écoute, maintenant ça suffit, je veux revoir ta mère. Et il est mort dans la nuit. Cette phrase, d'où tire-t-il qu'il va revoir sa femme? Comment se fait-il que c'est ça qui l'attire? Quelle conviction, lui, anticlérical, machin, compagnie, fait que cet homme, il n'a qu'une chose en tête, de retrouver de l'amour? Parce que là, c'est là qu'il a été vivant. Et ça, c'est pas du côté de la conscience. C'est pas du côté de la conscience. C'est du côté d'une autre position de foi. C'est-à-dire, ce type avait la foi que ce qui a compté pour lui, là où il a été le plus vivant, c'était sa femme, qui était partie quelques années avant. Donc, pour que ce type, ouvrier, sans culture, tradition catholique, avec toutes les aversions qu'il avait contre les catholiques, dise, sans mentir, à son fils, maintenant ça suffit, je vais voir ta mère, c'est que ce type a vécu à un moment donné, sans que sa conscience et politique et anticléricale et agnostique l'interroge, un autre lieu de conviction que ce qui tient dans la vie et après la mort, c'est l'amour. Vous voyez ces petites phrases comme ça, elles ont l'air de rien, elles sont énormes. Parce que ce type n'est pas en train de raconter des bobards, hein. Il est je veux revoir ta mère. Et il est mort dans la nuit. Là, j'ai prêché là-dessus, évidemment. C'est pour ça que je pense qu'il y a un autre accès à la foi qui est pas sans la conscience, mais qui est plus profond que la conscience qu'on en a. C'est ça, Michel Henry, en fait. C'est ça l'idée qu'il a. C'est qu'il y a, il y a un autre accès à la vie, et c'est ça, à mon avis, pastoralement, dans lequel il faut rentrer. J'essaie d'expliquer ça, mais je ne me fais pas bien comprendre. Il faut qu'on rejoigne les gens dans ce qu'ils ont déjà vécu, d'expérience, je veux dire, mystique sauvage, je ne sais pas comment l'appeler, sacré ordinaire, je ne sais pas comment le trouver, parce que là-dedans, il y a du creuset, il y a de l'attente. Après, nous, on met des formes cléricales qui étouffent ces expériences-là. Et en pastoral, dans ma paroisse, à Aix, c'était plus bourgeois, c'était différent. Mais dans ma paroisse, ça était plus ouvrier. Nous, c'est ArcelorMittal, c'est Baird, enfin, c'est les pétroles chez nous. Donc, on a vraiment des gens, voilà, ils bossent, etc. C'est vrai qu'ils bossent. Et on a des gens, c'est assez frustre et assez rustre comme expérience. Mais il y en a une. Il y en a une. Et je suis sûr que le cléricalisme, c'est souvent ce qui a tué cette primo-expérience. Alors, par contre, lui, il vivait sur un crédit religieux suffisant pour penser quand même qu'il y avait une vie après la mort. Après, qu'est-ce qu'on va faire enfin, moi, j'ai des enfants qui arrivent, ou des adultes, ils comprennent pas un mot de ce que je raconte, ils comprennent rien du tout. Rien. Rien, ils ne comprennent pas dans quelle planète je suis. Quand je suis arrivé à Istres, la première fois, je suis monté avec mon aube. Je n'avais pas de croix, j'avais une aube. Je suis monté à la vieille église pour dire à la messe. Il y a un gamin arabe d'ailleurs qui m'a dit « T'es qui toi ?» Ben, je dis « Moi, je suis le nouveau curé. » Ah, il dit « T'es pédé alors. » C'était le premier accueil. Ah, je dis « Non, ça va, t'inquiète pas, je ne m'occupe pas de vieux garçon. » Et vous allez voir la suite. Alors il me dit « Ah bon, ben, ça sert à quoi ?» Ben, je dis « Voilà, ben, je dis la messe, je fais des enterrements, enfin tout ça. » Elle dit, je peux rentrer dans l'église? Ben, je dis, rentre, vas-y, rentre. Alors, je vais rentrer dans la vieille église du village. Ah, il me dit, ah ouais, c'est bien tout ça, ouais, ça sert à quoi, les lumières, machin. On en discute. Puis il me dit, après, il me dit, de toute façon, hein, comme mon père, il dit, hein, à chacun sa religion. Ça, c'est des trucs de religiosité actuelle. Alors, il est parti, j'avais envie, tant mieux, heureusement. Bon, enfin, bon, j'étais accueilli par... ah oui, parce que je dis, mais qui c'est qui t'a dit que les prêtres étaient des PD? Ah oui, c'est mon père qui dit ça. Donc, les enfants, quelle religion il va avoir, le gamin? Bon, il y a eu des erreurs, des pardons, enfin, il y a eu des blessures, hein, faut pas non plus... Non, enfin, bon. Mais on est sur un fond dont le crédit religieux s'est extrêmement appauvri, extrêmement. Et on va le payer cher en angoisse, en agressivité, les gens sont devenus agressifs, hein, le tissu social est difficile. Hein. Un gars avec un gamin dans les bras, il crache sur le vendeur. Hein. Moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Avec son enfant dans les bras, il crache sur le vendeur. C'est dur, hein. Socialement, je promets, c'est hyper tendu. Hein. C'est un peu le côté désespérant.
Pour deux choses, la foi et le petit garçon qui attend en sortant aussi. Pour ce qui est la foi, je ne l'ai pas. Et oui. Et pourtant, j'étais bien élevée dans l'église chrétienne. Parce que le mot « la foi » il a perdu pour moi, il est devenu tellement matériel. Quand j'entends toujours j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai l'impression comme si on avait un objet. On l'a mis dans la poche, on l'a une fois pour tout. Et ça ne me suffit pas. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur, moi, ce que je pense, je l'ai remplacé par un autre mot. Et qui travaille, qui est très vivant et qui est très réconfortante sur toute la terre, notre monde qui est tellement noir. L'espoir, espérer, ça c'est extraordinaire. Et puis pour ce qui est notre monde, notre humanité qui souffre et qui ne l'a pas. Il y a même des gens hyper, ce qu'on appelle riches, c'est-à-dire en argent, en biens, et qui peuvent vivre des drames épouvantables. Comme il y a des gens qui ont trois fois rien et qui trouvent dans leur existence un équilibre et un bonheur. Mais il y a une chose que j'ai toujours rencontrée. Combien de fois il m'est arrivé, parce que bientôt j'aurai 120 ans, combien de fois il m'est arrivé que j'ai demandé à quelqu'un qui était vraiment dans la peine et a raison, est-ce que vous voudriez changer avec telle ou telle personne? Je cite une personne qui, soi-disant, avait tout ce qu'il fallait. Je n'ai jamais vu qui que ce soit qui voulait changer avec quelqu'un d'autre. Je crois qu'au plus profond, avec tous les malheurs qui arrivent, même les mères qui perdent ce qui est arrivé dans notre famille, leurs 5 fils, même eux, ils sont attachés à leur malheur, à leurs souvenirs, avec peut-être toujours à l'intérieur cette espérance de le retrouver dans le plus tard. C'est une espèce de vie. Alors je crois que on peut envier personne. Je crois que quelque part il faut peut-être accepter. Et pour finir, vous ne trouvez pas qu'il y a un remède qui est peut-être très ponctuel, mais qui serait un peu à la portée de tout le monde, ce que j'ai remarqué. Quand on a beaucoup, par exemple, des douleurs ou quelque chose comme ça, et tout à coup, on pense à quelqu'un d'autre qu'on aime, qui a du souci, pendant ce temps-là, on s'est oublié soi-même.
C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour ce que vous avez dit. C'est dit avec une telle force d'expérience et de conviction. Merci beaucoup.
Vraiment la dernière.
Vous avez dit, et ça m'a touché énormément en parlant de vous, je suis à ma place, juste à ma place. Et j'ai trouvé ça merveilleux et vous avez de la chance. Et est-ce que vous pensez que chaque être humain, que tout le monde, moi y compris, je pourrais avant de mourir dire je suis à ma place, juste à ma place. Est-ce que j'ose espérer cela?
Est-ce que vous oseriez le dire?
C'est-à-dire, non, je ne suis pas encore, je cherche ma place.
Vous y êtes déjà.
Et c'est ce que je ne cesse de dire à Marie-Lou, qu'elle est à sa place. Si on n'avait pas Marie-Lou ici, elle nous manquerait. Elle est à sa place. On a besoin d'elle et on a le désir qu'elle soit là à chacune de nos réunions. S'il n'y avait pas Marie-Lou, mais si.
Pasteur Charlotte, je confirme ce qu'elle a dit. Vous faites sauter les barrières et ça me libère chaque fois. Merci.
Et c'est vraiment un grand merci que nous formulons et que vous avez formulé, que je reformule à nouveau. C'était, je crois, une vraiment très belle soirée, très enrichissante. Et nous allons ainsi la finir. J'ai quand même 2-3 petites annonces. Et j'ai omis d'expliquer aussi notre amie Jeannette, dont je pensais vraiment la voir.